Scope Arena présente Vue du banc avec Florent Tonuti, Raphaël Cosmidis et Christophe Cuchely.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 21e épisode de la saison 9 de Vue du banc. On parle une fois de plus des Coupes d'Europe puisqu'il y avait une grande actu cette semaine entre la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, et on parlera notamment des deux clubs français, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, 1 sur 2. On pourra débriefer les rencontres qui leur ont permis de se qualifier ou non. Je suis accompagné de mes deux tauliers habituels, d'abord Florent Tonuti, salut Flo.
Salut Raphaël.
Et Christophe Cuchely, salut Christophe.
Salut Raphaël, salut Florent, salut tout le monde.
On a enregistré cet épisode dans la foulée des matchs du jeudi soir, donc on a beaucoup de choses à dire parce qu'il y avait beaucoup de matchs en parallèle. Il y a eu des prolongations, il y a eu Francfort qui s'est qualifié à Barcelone, donc on va faire vite. On va parler d'abord de... Je donne le programme et ensuite on détaillera. On va commencer par Lyon-West Ham, ensuite on parlera de Marseille qui a gagné en Grèce, et des petites projections sur les demi de la Ligue Europa Conférence. On parlera de l'élimination du Barça qui a été battu par Francfort à domicile. Et puis on fera un petit retour à la fin sur les deux matchs de Ligue des Champions qui nous ont particulièrement intéressés cette semaine, pardon, Real Chelsea et Atlético Manchester City. Messieurs, on va commencer par donc le début, c'est Lyon-West Ham. Victoire 3-0 des Hammers, Flo, en déplacement, sachant que le match aller, Lyon aurait pu l'emporter, puisque West Ham avait été longtemps à 10 contre 11, et que les Lyonnais n'avaient pas su en profiter. Je vais commencer par les compositions et je te laisserai expliquer comment a démarré ce match, parce que je n'ai pas vu les matchs du soir, donc je serai, comme d'habitude, dirait Christophe Cuchely, l'idiot utile de cette émission. Ça commence du côté lyonnais avec Polersbeck dans les buts, une défense à 4, Emerson, Loukeba, Denayer, Gusto, Mendes, Ndombele au milieu de terrain, Fèvre à droite, Toko et Kambi à gauche, Aouar en 10 derrière, Moussa Dembélé. Du côté de West Ham, Areola dans les buts, une défense à 4 avec Tsoufal, Dawson, Diop, Johnson derrière, Soucek et Rice au milieu de terrain, Lanzini en 10, Fornals à gauche, je le lis en tout cas à gauche, Bowen à droite et Michael Antonio en pointe. Alors Flo, est-ce que ce 3-0, déjà dans un premier temps, je vois des stats brutes comme ça, qui montrent une certaine domination lyonnaise sur le plan stat, est-ce que c'est une domination qui ne résulte finalement que de l'effet du score, comme on l'appelle, parce que Lyon a été vite mené à la 38e minute, puis 44e 2-0, puis 48e 3-0, est-ce que c'est juste ça qui a permis à Lyon de prendre le dessus, le fait que finalement West Ham n'avait plus besoin de marquer?
Non, il y a eu une bonne entame de Lyon, avec Toko Ekambi notamment qui touche le poteau. Il a une autre action aussi sur un centre, je crois qu'il vient de la droite, où il est un peu surpris que le ballon lui arrive dans les 6 mètres et il fait pas de reprise finalement. Mais globalement, quand tu prends l'ensemble du match, t'as eu droit au scénario que tu craignais face à un tel adversaire, que tu pouvais craindre contre une équipe comme West Ham. Qui a été capable de traverser un premier temps faible dans le match sur l'entame et qui par contre a sanctionné dès qu'elle s'est mieux sentie et a sanctionné très méchamment son temps fort, puisque comme tu l'as dit, les trois buts s'enchaînent quasiment avec le premier sur coup de pied arrêté, le deuxième sur un tir
techniquement c'est en 10 minutes si on accepte les 15 minutes de la pause.
Ouais, après même en ajoutant la pause, t'as vraiment ce côté c'est le fameux truc on est mené 2-0, mais je fais des changements, puisqu'à la mi-temps, Bosch fait rentrer notamment Paqueta. Il change de système, il passe en 4-3-3. Tu dis, allez, on repart de l'avant, et puis paf, et tu prends le troisième direct, et puis c'est terminé, quoi. Donc ouais, t'as vraiment ce côté, passer l'entame de match, ce côté un peu impuissant, côté lyonnais, face à un adversaire qui, sur son bloc bas, sur ses bases, était beaucoup plus solide et beaucoup plus armé pour traverser des temps ou des périodes plus faibles. Ils ont survécu au temps fort lyonnais et derrière, ils ont vraiment sanctionné au maximum leur temps fort à eux.
Avec des buts pour West Ham, je ne les ai pas donnés, de Craig Dawson sur une passe de Pablo Fornals. Christophe Cuchely devait être très heureux.
Oui, très heureux. Il s'est tiré.
Declan Rice à la 44e, 2-0. Et Jarrod Bowen, ce diable de Jarrod Bowen, j'ai l'impression que c'est un joueur qui s'applique vraiment à cette expression de Christian Jean-Pierre, sur une nouvelle passe de Pablo Fornals. Donc c'était vraiment la Cuchely zone ce soir en Coupe d'Europe. Christophe, j'ai lu des supporters lyonnais très très énervés sur les réseaux sociaux, à la limite de la démission générale. D'ailleurs, les supporters dans le stade avaient l'air un peu tendu aussi à la fin. J'ai vu quelques images de barrières qui n'étaient plus vraiment des barrières. Est-ce que la performance lyonnaise et ce qu'ils ont proposé sur le terrain correspond à la réaction des supporters qui ont l'air d'être à bout de ce que propose cette équipe?
Alors déjà, on précise le contexte de ma soirée de visionnage. À 3-0, j'ai zappé.
C'est-à-dire que je ne vais pas juger ce qui s'est passé après la 49e, ce qui représente quand même 47% de la durée d'un match, parce qu'il y avait 3-0 et bon, tu sentais pas Lyon forcément en mesure de réagir. Donc c'est-à-dire
et,
que...
Du coup, je précise, Christophe, que 12 des 17 tirs lyonnais viennent sur la période que tu n'as pas vue, mais qui est donc déjà à 3-0. Et on sait à quel point...
C'est vrai que t'as l'effet du score.
Voilà,
quoi,
à quel point l'effet du score est important dans ces moments-là. Une équipe recule, laisse venir, et forcément, elle concède des tirs. D'ailleurs, Lyon a fini devant OXG, mais je pense a couru derrière le score, en fait, et s'est créé des occasions une fois que c'était quand même très compliqué d'imaginer une égalisation et une prolongue.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, j'ai regardé les stats de possession, par exemple. Hop, toc, je mets 49e. On est à 62% de possession pour Lyon et 6 tirs à 5 pour West Ham. Et effectivement, la possession termine à 67 pour Lyon et 17 tirs. Donc, c'est-à-dire ce que je rate. Hop, je continue mes petites manips. Il y a 74% de possession pour Lyon. Effectivement, ce que je peux pas juger, donc, c'est la réaction des supporters lyonnais sur ce côté... on n'arrive pas à 100% se révolter, à au moins mettre un peu de folie, en gros domination totale, mais est-ce que sur cette phase-là où t'as 12 tirs à 4, il y a vraiment du danger, t'arrives vraiment à attaquer ce bloc bas ou pas? Mais le scénario était déjà fait, c'est pour ça que je me donnais la possibilité éventuelle de revenir et que je ne l'ai pas fait. Et sur donc cette partie que j'ai vue, qui est quand même suffisamment substantielle puisque j'ai vu tous les buts du match, c'est en fait assez difficile de juger la performance lyonnaise. Je pense que l'énervement peut venir du fait que l'adversaire n'a pas l'air très bon, en fait. C'est-à-dire que alors l'aller, encore une fois, là aussi il y a un côté un peu difficile à appréhender parce que West Ham est quand même en infériorité numérique pendant la moitié du match, mais ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'il y avait en première période, peut-être avec un peu moins de rapport de force en faveur de Lyon quand même. Je trouve qu'à partir de la 25-30e ça commence à s'équilibrer et West Ham se crée des trucs, mais si les gens se souviennent de ce qu'on a dit, et si je me souviens bien parce que je me réécoute pas de ce qu'on a dit sur le moment, c'était ok, Lyon a la balle, mais en face il y a quand même une qualité technique pour assez facilement sortir de la pression et une qualité physique pour, sur les longs ballons, quand t'as réussi à sortir de la pression, soit gagner le duel aérien par Antonio, soit prendre la profondeur par Bowen, etc. Donc certes, t'avais plusieurs moyens d'assez facilement remonter 50-60 mètres, et encore là, sur le début de match, il y a un moment, je me souviens, Fornals qui, pour sortir de la pression, fait un petit pont et ensuite enchaîne par un renversement.
Sur le match aller, on s'était dit que Lyon avait des tirs en effet, mais que West Ham avait eu des situations qui aurait pu être beaucoup plus dangereuse, mais qui n'avait pas été transformée par l'avant-dernière passe ou l'avant-dernier déplacement. Mais on avait senti qu'il y avait du danger malgré la timidité de West Ham.
Donc, en fait, le truc, c'est que... Pardon,
Christophe, non, vas-y,
je vais
te
reprendre après. Mais c'est que cette équipe, en fait, n'a pas d'identité. Ils sont bien classés. En première. Ils sont 5 ou 6, là, maintenant, j'imagine.
Ils descendent un tout petit peu. Là, ils sont 6.
Oui, mais c'est une équipe qui, jusqu'en février-mars, jouait la qualif pour la Ligue des Champions.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mais en fait, c'est une équipe qui a pas une énorme identité. C'est-à-dire qu'avec la balle, voilà quoi.
C'est du Moïse.
C'est bien résumé. Mais par contre, en fait, ils ont plusieurs très très bons joueurs. Donc Fornals, c'était la soirée de Fornals là. Bowen, on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Antonio, il peut faire rigoler, mais il fait rigoler tout le monde, sauf les défenseurs adverses, je pense. Soucek et Rice, c'est très très solide au milieu. Ils ont des bons latéraux aussi. D'ailleurs, Koufal, l'autre ami de Christophe, était titulaire.
Et ils ont du banc, Flo, aussi, il faut le dire. Ils ont du banc,
ouais, parce que Yarmolenko, on l'a pas vu de la double confrontation.
Voilà, il rentre en toute fin de match. Mais
voilà, il rentre, ouais. Mais on l'a pas vu.
Il y a Benrahma qui rentre alors qu'il est titulaire à l'aller.
Ouais, c'est ça. Donc globalement, t'as quand même une équipe qui, niveau effectif, n'avait certainement pas à rougir par rapport à l'OL. Et à côté de ça, t'as un plan très simple et surtout cette capacité, West Ham, quand ils pressent pas, et déjà ils pressent pas non plus énormément, mais quand ils sont à 11 derrière, vas-y pour aller les chercher. Lyon, quand ils sont à 11 derrière et qu'ils subissent, on sait ce que ça donne en championnat et on sait que ça va craquer à un moment donné.
West Ham a fait jouer son deuxième gardien. Areola n'est pas le gardien titulaire de West Ham, faut préciser aussi.
Ouais, il joue les coupes. Bon, après, je suis pas sûr qu'il y ait un écart énorme entre Areola qui joue les coupes européennes et l'ami Fabianski qui a, je crois, 37 ans et qui joue en championnat. D'ailleurs, Areola, au stade avancé, je crois, était deuxième de première ligue la saison dernière en but évité. Donc, j'imagine qu'il y a une question de hiérarchie, etc. Fabianski, en gros, fait pas assez de bourde pour être mis en question. Mais Il s'est limite plus, genre voir Dawson relancer depuis quelques temps, alors que c'est un mec qui joue en championship il y a genre 2-3 ans, ou Koufal qui était passé, Tsoufal, deuxième latéral droit, là titulaire. En gros, c'est d'être un peu, pas tué, mais d'avoir des joueurs comme ça, qui t'embêtent vraiment presque plus que Areola, mais juste avant de te redonner
la parole. J'ai un quiz juste pour toi, Christophe. À ton avis, il fait quelle taille, Fabianski?
Je sais pas, 1,97? J'en sais rien du tout, je visualise pas Fabianski.
Je pense qu'il est pas grand. Il est pas si grand que ça. Allez, je joue 1,80. Alors, pas grand à l'échelle d'un gardien, quoi. 1,85, 1,86.
Bah, tu vois, pour moi, c'était un genre taille Landreau. Et en fait, ouais. Il fait quand même 1,90. Mais il y a une.
Pas pensé, ouais.
Mais je pense qu'il y a quand même une partie de brioche qui fait que on est un peu trompé par le. Tu vois, par ce format-là. C'est pas du format Ter Stegen où le mec est tout long. C'est autre chose. Mais 1,90, donc Christophe qui a dit 1,97, t'es plus mais proche finalement quasiment.
En fait, je visualise pas du tout Fabianski dans son but. Je vois ses arrêts, etc., mais sa proportion, m'avait jamais...
Pour moi, on est plus proche, pour faire plaisir à Flo, de la chocolatine que du pain suisse, tu vois. Mais finalement, il fait quand même 1,90.
Mais juste pour reprendre ce que je disais, les deux philosophies d'équipe et les deux... En gros, ce que tu dois être capable de faire dans ton plan de jeu et là où tu dois dominer, pour moi, ça se voit notamment sur les profils des deux milieux devant la défense. C'est-à-dire, d'un côté, t'as Ndombele et Thiago Mendes. Alors, Thiago Mendes, même si son aventure lyonnaise est pas incroyable et que ses meilleurs matchs sont comme défenseur central, mine de rien, c'est quand même quelqu'un qui, logiquement, à Lille, était capable d'avoir des jolies ouvertures, voilà, une vraie qualité de pied. Et Ndombele aussi, un super créateur, dribbleur dans les petits espaces. De l'autre côté, Rice et Souček, même s'ils sont capables de se projeter vers l'avant, il y a quand même une densité physique qui est autrement plus importante. Et en gros...
Une discipline par rapport à Ndombele ou Mendes. Enfin, Ndombele, c'est plus de la déconcentration et Mendes, de l'irrégularité.
Mais clairement, en gros, tu dois gagner cette bataille-là aussi. C'est-à-dire la créativité doit prendre le pas sur la discipline, sur la taille, sur l'impact physique. Et c'est pas du tout le cas. Et franchement, de ce que j'ai vu... Je trouvais Toko Ekambi vraiment très intéressant. Alors, il finit pas, mais très intéressant pour faire la différence. Notamment, sur le reste des postes, Lyon avait la balle, mais encore une fois, en gros, un top Lyon doit passer, mais là, on se retrouve finalement, le Lyon qui est 10e du championnat face à une équipe qui est 6e de première ligue. Et son absence d'identité devient une identité pour côté West Ham, parce que du coup, ils ont l'habitude de faire ça, en fait, de balancer leur centre, de jouer des transitions. Bon, il y a un temps fort, donc on va s'installer dans le coin adverse, on va mettre des frappes à 20 mètres. Finalement, eux étaient un peu sur ce qu'ils savent faire, et dans l'absolu, tu peux gagner ce match-là, tu peux avoir des regrets sur ce match-là, sur comment ça tourne, mais surtout, tu devais te donner une marge à l'aller, parce qu'on se rend compte que peut-être que si ça joue 2x11, finalement, peut-être que West Ham gagne les deux matchs.
Ouais, voilà.
Et c'est quoi l'identité de l'OL, Flo?
Bah, c'est difficile de poser une telle question quand t'es mi-avril, que t'es 10e du championnat et que... Bah, l'identité de l'OL, disons qu'il y en a peut-être une, c'est une équipe qui ne sait pas ne pas avoir le ballon, je pense. Et du coup, bah, ça lui coûte beaucoup, puisqu'elle ne l'a pas tout le temps, vu qu'elle presse pas tout le temps,
etc. Le souci étant qu'ils ne savent pas ne pas l'avoir, mais ils ne savent pas le récupérer non plus.
Donc, oui, non, mais c'est ça. Ils ont pas aussi. On peut se demander aussi s'il n'y a pas un souci physique dans cette équipe, parce que ils sont pas capables de soutenir un pressing. Alors à part Kakré qui court partout, mais là c'est vrai, tu vois, t'as quelques matchs où Kakré est pas là. Qui est l'élément moteur au pressing pour aller chercher les autres?
Ouais.
C'est difficile. Hein. Et mais t'as quand même ce côté, c'est-à-dire que moi l'action qui m'a le plus choqué, alors le mal était déjà fait, mais c'est en début de deuxième. C'est cette transition qui amène le troisième but de West Ham. On en parlait avec Christophe. Alors certes, le pauvre Castello, je pense qu'il se déporte un peu trop vers la droite parce qu'il couvre Denayer en cas de duel perdu avec Antonio. Mais du coup, donc, t'as toute cette partie à gauche qui s'ouvre pour la passe vers Bowen qui s'en va marquer. Mais le vrai souci, c'est qu'au départ de l'action, Bowen, il est dans la surface de réparation. Il est avec d'autres joueurs, notamment le Lyonnais, et ces joueurs-là le laissent totalement partir, et il n'y a personne qui vient faire l'effort pour aller couvrir la zone qui, dans un schéma logique où Loukeba se retrouve déporté à droite, et c'est Emerson, c'est le latéral gauche qui aurait dû revenir. Mais je crois qu'Emerson, au départ de l'action, il essaie un dédoublement, il est loin dans la surface de réparation. Mais dans ce cas-là, c'est un des milieux où c'est un autre joueur qui est pas loin de Bowen qui doit faire cet effort et couvrir, et il n'y a personne qui le fait.
Je pense que Toko est pas loin de Bowen, notamment. Disons, je trouve que Lukeba s'excente un peu trop parce qu'en fait, dans tous les cas, il avait un contre 2 à jouer. Il aurait pu rester un peu sur Lanzini et être à distance d'intervention un peu plus sur Bowen. Mais dans tous les cas, s'il y a un contre 2 à jouer, c'est donc qu'il manque minimum un élément, en fait.
Ouais, c'est ça. Et ouais, je crois qu'il passe devant, alors, je veux pas, c'est peut-être Toko, je crois qu'il passe devant Dembélé aussi et il doit y avoir Aouar, pas très loin. Mais voilà, il y a vraiment ce souci, c'est-à-dire qu'il laisse partir le gars, et puis bah derrière, c'est terminé, quoi. Et ça, quand t'es à la 48e d'un match, où bah, t'es mené 2-0, et tu sais que si t'en prends un autre, c'est totalement terminé, alors que tu viens de reprendre, tu ressors des vestiaires, il y a quand même un côté démission collective qui peut expliquer pourquoi les supporters sont un petit peu à bout après ce soir.
Une question pour vous. Si vous étiez directeur sportif de l'OL, et c'est un peu une manière de teaser notre épisode... On fera le jeu du directeur sportif avec l'OL. Je reprends un peu l'idée d'ailleurs dans le dernier podcast de Bill Simmons du Now What et maintenant. Maintenant, à l'OL, on fait quoi ? Flo, Christophe, l'équipe éliminée en quart de finale en prenant 3-0 à domicile, en étant incapable de gagner à l'extérieur sur match aller à 11 contre 10 pendant 45 minutes, largué en Ligue 1 très très loin du... Enfin, très loin. Relativement loin, vu que c'est un championnat serré, mais trop loin du podium pour espérer se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Toujours pas d'identité de jeu, Cacré en fin de contrat en 2023, des joueurs qui semblent ne plus progresser, Ndombele qui est revenu mais qui va sans doute repartir, en tout cas les performances justifient pas un achat incroyable. Alors il y a des jeunes qui sortent du centre de formation, il n'y en a pas non plus d'un coup assez qui vont pouvoir transformer l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait ?
Bah tu vas reboot, reste à savoir avec quel coach tu vas reboot, ça paraît assez... assez évident. Est-ce que tu vas prendre un coach français? Est-ce que tu vas aller voir essayer de débaucher un Stéphane ou quelque chose comme ça?
Un Francaise.
Même si, de mon point de vue, si t'es à la place de Stéphane, je pense pas que t'y ailles. Si tu peux être européen avec Strasbourg, je pense que t'aurais plus de couleuvres à avaler en allant à Lyon.
Tu refais au moins une saison avec Strasbourg.
Ouais, je pense, ouais, vu la situation. Mais c'est vrai que Aiz, peut-être qu'ils vont essayer, en effet, avec d'aller le chercher à Lens. Mais non, oui, tu vas. La question, c'est tu vas rentrer combien cet été avec les quelques ventes que tu vas faire, parce que Aouar, ça fait 3 ans qu'il doit partir, mais il doit peut-être finir par partir.
Il doit plus valoir grand-chose, par contre.
Ben, c'est ça, oui, mais bon, à un moment donné, tu vas avoir Paqueta, sans doute, qui va partir, et il va falloir que tu repartes avec, en effet, tes jeunes, et que tu recrées quelque chose, mais reste à savoir, oui, au-delà de la reconstruction d'équipe, c'est avec quelles ambitions tu vas démarrer l'année prochaine. Est-ce que tu vas repartir en disant on veut aller en Ligue des Champions direct ? Ou est-ce que tu vas repartir avec des ambitions moindres ? Vu le train de vie de l'OL, ça me paraît compliqué.
Le souci étant que même si tu te dis allez, on essaie d'accrocher la Ligue des Champions, on recrute des bons joueurs, on met un coach avec qui ça peut marcher, enfin un coach avec qui ça tourne bien, t'as quand même le PSG, l'OM, Nice, Rennes, Monaco qui peuvent s'armer, voire se réarmer. Pourquoi pas un Lille si ça tourne bien ? Donc t'as quand même 5-6 clubs qui à l'instant T sont au moins devant toi. Hein.
Ouais, c'est sûr. Je vais laisser Christophe reprendre.
Je sais pas pourquoi t'as rigolé, Flo, sur Lille, peut-être.
Ouais, parce que t'as dit Lille et j'ai fait le nom de la tête. Parce que Lille, la moitié de l'équipe va partir cet moi. Été.
Oui, mais est-ce que la structure en place est pas déjà plus prête à renouveler que celle de l'OL, par exemple ? Je ne sais pas. Hein. Je pose la question. Je n'y réponds pas de manière rhétorique.
Je suis pas sûr, au-delà des finances où Lyon gagne de l'argent avec son stade, Lille en perd. Mais non, honnêtement, je n'ai pas de réponse à t'apporter. Ce qui peut être bien aussi, c'est-à-dire que parfois la réponse semble tellement évidente que ça fait un peu monsieur je sais tout et on peut potentiellement se tromper. Là, honnêtement, je trouvais que partir sur Bosch, c'était un truc intéressant. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc c'est-à-dire que en gros, tu peux un peu cocher. Alors, ça veut un exemple ne fait pas une règle, mais tu peux cocher le côté coach étranger, un peu idéologue d'une certaine philosophie de jeu. Ça ne fonctionne pas, donc c'est-à-dire du coup...
C'est francophone en plus, donc t'avais quand même un avantage.
Donc ça, ouais, c'est ça, donc ça a tendance à disqualifier. Par exemple, hein, j'ai absolument aucune idée si c'est faisable, mais c'est un fantasme vraiment de supporter lyonnais. Tu vois, Gasperini semble quand même un peu en fin de cycle à l'Atalanta, en tout cas.
Ou Deserbi, etc. Deserbi risque d'être dispo.
Deserbi, à voir ce qui se passe en Ukraine. Hein. Mais tu vois, je pensais à notre ami Gasperini, parce que l'Atalanta est 7e du championnat, et là, il était sorti sur un match que j'ai beaucoup apprécié contre Leipzig juste avant. la question lui de son avenir va se poser, mais en même temps tu dis le mec est pas francophone et on a déjà essayé quelqu'un qui avait aussi des convictions très fortes et ça n'a pas fonctionné. Donc honnêtement, je pense qu'il y a quand même une certaine culture lyonnaise qui fait que ce club, à mon avis, fonctionne mieux avec un entraîneur français. Je sais pas si je m'en réjouis ou pas, mais je trouve ça un peu dommage que du coup, quand t'essayes un peu de sortir de ce profil-là, visiblement ça marche pas. Maintenant, est-ce qu'il y a une formule à la fois sur quel jeune titulariser, quelle politique de recrutement à mener, quel type de coach prendre? Honnêtement, effectivement, hein, je trouve que Hez est un super bon coach. Maintenant, je suis content qu'il soit à Lens, hein, et, pas loin de là où j'habite. À voir, mais non, je suis pas sûr que t'aies un. T'auras encore du matériel. Hein. Normalement, tu dois terminer 5-6e sans souci minimum. Maintenant, il n'y a pas un truc où tu dis « Ah bah c'est tout simple, il suffit de changer ça, il suffit de virer genre deux sénateurs et ça va se régler. » Parce que le problème de l'attitude d'un War, par exemple, attitude pas forcément hors terrain, mais son implication sur le terrain, ses courses défensives, etc. Ça, c'est un truc qui est quand même au long cours. Pareil, celle de Cherki, etc. Et pour l'instant, t'as pas trouvé vraiment de solution. Tu dis « Bon, on a fait une solution A, il suffit juste de faire l'inverse et ça se mettra à fonctionner. »
Bon, de toute façon, on en reparlera lors de l'édition jeudi des rigueurs sportifs concernant l'Olympique Lyonnais. On va faire maintenant le match de l'Olympique de Marseille, on va faire un peu plus court parce que Christophe n'a pas vu le match, mais toi Flo, tu l'as vu en petit. Tu avais deux écrans et c'était sur le petit écran puisque c'était la petite Coupe d'Europe. Je sais pas si ouais, c'était voilà, ça ouais, ta logique. C'est un match où les tribunes promettaient autant que le terrain, voire plus, puisqu'il y avait eu pas mal de déclats interposés entre les deux clubs, ouais. Un concours de virilité, notamment de la part du coach de Salonique, qui était un peu chaud.
Oui.
Qui était motivé. Bon, ça finit 1-0 pour l'OM avec un but de Dimitri Payet à la 34e minute. Est-ce que dans le jeu, l'OM a été perturbé, embêté, inquiété à un moment?
Oui. Bah, l'entame de match a pas été simple, c'est-à-dire que, en effet, c'était chaud et sur le terrain, les premières minutes, les 5-10 premières minutes de jeu ont été chaudes. Il y a eu au moins deux grosses occasions sur cette période-là pour le PAOK, qui en a eu trois au total et qui a raté ces trois grosses occasions.
Qui a 16 tirs contre 6 pour l'OM, hein, donc il y a quand même eu une domination sur les tirs tentés.
Non, il y a eu une domination, ouais, et Marseille a fait le. Tu sais, ce genre de match qu'ils ont pu parfois faire en championnat mais plus dans la deuxième moitié de saison, où tu sens une certaine force et une certaine sûreté sur le plan défensif. Tu sens qu'ils sont sur deux, mais que la marge est pas immense, quoi. Tu sens qu'ils sont dans leur projet, dans leur truc. Mais voilà, Mandanda doit faire des arrêts. Rongier, plusieurs fois, Rongier qui était positionné devant la défense sur ce match-là, fait des retours très importants pour rattraper une situation avant, tu sais, qu'il y ait un tir. Et il en a fait, j'en ai au moins deux en tête où il fait des retours dans la surface de réparation ou devant la surface.
Mandanda a l'air d'avoir fait un gros match aussi, si je lis les stats avant.
Ouais, il est élu homme du match par les stats sur FOTMOB notamment. Ouais. Mais oui, il fait quelques arrêts importants. Mais oui, parce qu'en plus, tu vois, typiquement, alors, il y a cette entame difficile, Marseille revient, rentre dans son match, a un peu de maîtrise, Payet met son but. Et après, t'as ce côté, comme on évoquait le score effect, t'as un peu ce côté-là aussi, je pense, sur côté marseillais. Et du coup, dans une ambiance pareille, un public chaud qui pousse, etc., tu te dis, moi, tout à chaque fois que j'avais l'œil qui se tournait vers ce match pour voir un petit peu comment ça en était, je me disais, alors j'avais un petit côté sadique où je me disais, si le PAOK le met, là, ça risque quand même de s'enflammer, de pousser fort, quoi.
Ça a craqué des fumis, c'était comment les tribunes de ce que t'avais
vu? Ah ouais, il y a eu.
Normalement, les Grecs, quand ils sont. Les Grecs, il y a toujours des fumis quand c'est important.
Il y a eu du fumis, il y a eu de la musique, il y a eu du bruit. non, c'était chaud. Mais voilà, t'as ce côté-là où tu dis, s'ils le mettent, je sais pas si Marseille va réussir, tu sais, à tout rééteindre, quoi, à tout recalmer.
On parlera finalement tout à l'heure d'Atletico City, où je pense qu'on aurait pu se dire pareil, sur la deuxième période, l'Atletico le met, est-ce que ça se relève en face?
Mais finalement, ils l'ont jamais mis, grâce à la maladresse un petit peu des finisseurs côté grec, grâce, comme je disais, aux défenseurs marseillais notamment, enfin, Rongier n'était pas défenseur, mais certains retours de Rongier par exemple, grâce à Mandanda dans les buts, voilà, il n'y a jamais eu ce premier but qui aurait peut-être fait vaciller un peu tout le monde. Donc finalement, tu ne retiendras que le score et la qualif et le fait que tu as survécu dans un environnement qui n'était pas forcément très très accueillant de prime abord.
Je vais faire intervenir notre consultant international, la Maryse Burgot de VDB, c'est Christophe Kuchli, qui va pouvoir peut-être nous dire un mot de Feyenoord, parce que c'est le futur adversaire de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. L'autre demi, c'est Leicester Roma. Donc on peut dire que Marseille, quand même, le tirage avait déjà été fait avant, hein. Mais Marseille a quand même l'adversaire, en théorie, le plus abordable, Christophe, si on se place selon ce qu'on sait des trois équipes, et surtout, je pense, selon ce que proposent les sites spécialisés. Je pense que sur 538, la Feyenoord doit être l'équipe la moins bien évaluée, la moins bien estimée sur le site. Est-ce que c'est toi qui regardes un peu qui regarde tous les championnats, parce que tu regardes tous les résumés tous les week-ends, notamment, est-ce que Feyenoord est une équipe qui a prétention à pouvoir sortir l'OM, par exemple?
Ça peut... Bon, il y a toujours match. Je pense que Feyenoord est au-dessus de Karabakh, qui avait des vrais principes intéressants, mais qui avait des limites au niveau talent individuel. Honnêtement, je trouve... Alors, encore une fois, j'ai pas vu ces matchs-là, parce que moi, j'ai du mal vraiment à regarder deux matchs en parallèle, donc je me concentrais uniquement sur Lyon pour vue du banc. Mais de ce que j'ai vu du PAOK, notamment, c'était... Et de Bâle aussi, d'ailleurs, c'était pas très fort. Et du coup, mine de rien, je trouve que Marseille s'est quand même pas mal mis en difficulté, vu ce que j'ai vu des adversaires, en tout cas sur les résumés, sur les temps faibles, etc., que je trouvais vraiment assez faible. Donc là-dessus, je pense qu'il faudra quand même être plus tueur que sur les deux matchs aller face à Bâle et face au PAOK, où tu dois tourner avec 3 buts d'avance et pas te poser la question du tout d'avoir des frayeurs au match retour. Maintenant, Feyenoord sort le Slavia, qui est quand même une bonne équipe, même si c'est pas exactement le même Slavia qui a 1, 2, 3 ans un peu plus faible. Feyenoord prend des buts, certains un petit peu ridicules, face au Slavia, encore celui de jeudi soir, c'est une passe en retrait trop molle qui est du coup interceptée par Traoré, qui peut aller marquer en dribblant le gardien. Maintenant, il y a quand même... voilà, faut, si tu situes vraiment dans l'absolu, Feyenoord a 61 points en championnat, le PSV en a 68, l'Ajax en a 72, c'est-à-dire qu'ils ont plus de retard sur le PSV qu'ils n'ont d'avance sur Twente et sur l'AZ. Or, le PSV est une équipe qui, par exemple, n'était pas aussi forte que Monaco il y a quelques tours en Ligue Europa, donc du coup tu peux estimer que Marseille est favori, mais il y a quelques...
On connaît pas les joueurs, hein, enfin peut-être toi tu les connais parce que tu regardes souvent, mais je pense pas que ce soit des joueurs qui parlent au public, même habitué de VDB, parce qu'on a rarement l'occasion de voir le Feyenoord, et il n'y a pas de joueurs un peu cotés comme ça avait été le cas, tu sais, la saison par exemple dernière avec les deux de la Z, Boadou et Stengs. Là, il y a...
Ou même au PSV qui avait joué Monaco,
ouais, avec
Hakpo, etc. Là,
ouais. Bah, là concrètement, il y a Tornstra, qui a 33 ans, qui a sa petite carrière, qui a fait une ordre depuis très longtemps, qui a fait une saison à 14 buts, donc les gens, ça leur parle peut-être. Il y a Sinisterra, qui a 22 ans, qui a 11 buts en championnat, qui est un jeune attaquant colombien. Bon, là, pareil, peut-être que des gens... Alors, moi, je joue pas à Football Manager, mais peut-être qu'il ressort à Football Manager ou sur des autres trucs. Deux autres noms qui peuvent être parlants. Jacques Ambash, qui est l'Iranien, qui jouait faux pied, qui marquait un ou deux buts, et c'est exceptionnel avec Brighton.
Il y a Rhys Nelson. Je ne savais pas si c'était lui, le R. Nelson, mais c'est Rhys Nelson, donc ancien d'Arsenal, qui, pour le coup, est quand même connu, parce qu'il a joué... avec Offenheim également. Il est sur une saison à 0 but pour l'instant avec Feyenoord, mais à 1 but en compétition continentale.
Ouais. Et peut-être que le meilleur joueur, c'est Rustil, le milieu de terrain formé à la Z, en même temps que tous les autres, avec la réalité virtuelle, les Boadou, Stenkres, etc., qui était parti au Spartak, puis à Fribourg, qui n'avait pas percé, qui là, alors je ne suis pas en tête ses buts.
Il n'a pas joué, je crois.
Mais ouais, non, il ne jouait pas... à Fribourg, mais qui là a 15 buts en 29 matchs alors que c'est un numéro 8 et qui était un peu le binôme de Cope Miners à l'époque quand les deux étaient à la Z, donc je ne sais même pas exactement comment est-ce qu'il a marqué ses buts. En gros, là, je crois qu'il joue plutôt de numéro 10 cette saison.
Est-ce que tu sais où il est né?
Bah du coup oui, j'ai ça
c'est improbable.
J'ai sa fiche sous les yeux. Oui, il est né en Zambie, alors peut-être qu'il y a un père qui était footballeur qui jouait là-bas, ou je ne sais pas. Mais oui, mais qui a un bon petit joueur, 15 buts tous dans le jeu, enfin tous dans le jeu, en tout cas pas sur penalty. Mais non, c'est quand même très très nettement abordable quand tu compares au pedigree de Guendouzi, Gerson, etc. Payet.
Je préfère ça que Leicester ou la Roma. Hein, parce que la Roma qui avait souffert contre Bodø/Glimt deux fois cette saison, il leur a mis un 4-0 à domicile avec triplé de Zaniolo.
Et pas le plus moche des triplés de l'histoire. Hein.
Oui, j'ai vu que Mourinho était très content. Il a mis à la fois un tir et un compliment à Zaniolo. Il a dit demain il sera en une, pour une fois c'est pour une bonne raison, c'est bien, quelque chose comme ça. Pour le coup, je suis assez client de ce genre de déclat. Après un 4-0, tu peux, parce que le joueur est tellement heureux qu'au pire, ouais, il va dire, oh, ok. Il est dans son triplé, il est encore heureux, mais Mourinho le dit pas forcément toujours dans les moments les plus agréables pour les joueurs. Ok, bah, de toute façon, on verra, c'est bientôt, hein, c'est le 28 avril, le match aller, donc on aura pas forcément beaucoup de temps à attendre avant de savoir si l'OM va pouvoir passer Feyenoord et se retrouver en finale de Coupe d'Europe, 4 ans après la finale de Ligue Europa, avec Rudy Garcia perdu contre l'Atlético. Une équipe qui ne sera pas en finale, et ça c'est sûr, Christophe, c'est le Barça, qui a été battu 3-2 par l'Eintracht Francfort. 3-2, mais qui était mené 3-0. Avec un but à la 91e et un but à la 100e minute, oui. De ce que je vois. Donc il a dû avoir un temps additionnel agité.
Bah, en fait, pour te dire, c'est qu'il y a eu une suspicion de pénalty pour le Barça, mais il n'y avait jamais pénalty. Mais l'oreillette de l'arbitre ne marchait pas et ils ont mis 5 minutes à lui remettre une oreillette et à rétablir la communication.
Mais Indica a pris rouge, du coup.
Ouais, il prend rouge, c'est un peu sévère. Par contre, il le prend très bien. Enfin, il prend deuxième jaune. Enfin, tu vois, bon, après, c'est avec son équipe était qualifiée, mais tu prends un deuxième jaune à la 100e minute qui te prive d'une demi-finale aller. On lui met deuxième jaune pour, en gros, c'est un duel aérien où il sort un petit peu le bras, mais il met pas le coude. Et bon, il sort, il fait bon, bah, ok, sans rien dire, j'ai fait bon, c'est quand même assez.
Le genre de jaune qui peut être annulé, tu penses ou pas?
Non, je pense pas quand même, parce que tu peux le donner, mais tu le donnes plus souvent au milieu de terrain que dans la surface.
C'était pour savoir si ça pouvait être la raison de son calme.
Bon, je pensais plutôt la qualif, mais à sa place, j'aurais été un peu déçu quand même.
Les compositions, avant qu'on aille sur le match. Du côté du Barça, Ter Stegen dans les buts, une défense à 4, Mingesa, Arojo, Eric Garcia et Jordi Alba, un milieu à 3, Busquets, Pedri, Gavi et une attaque, Aubameyang dans l'axe, Dembélé à droite et Ferran Torres à gauche. Du côté de Francfort, quelques joueurs qu'on connaît, avec Kevin Trapp dans les buts, une défense à 3 avec, ça doit être Almami Touré, le Touré que je vois.
Absolument. Ouais,
c'est Almami Touré, en défense centrale, Hinteregger, qu'on avait vu lors de l'Euro, et Evan Ndika, le français qui était là aussi, il y a Knauf à droite, dont tu nous parles souvent, Christophe, en privé, tu vas pouvoir en parler en public dans VDB. Philippe Kostic, la légende de VDB, l'ex semi-ballon d'or d'il y a 2 ans. Au milieu de terrain, Sébastien Rode, l'ancien du Bayern et de Dortmund. Jakic, au milieu de terrain, ça je le connais moins. Et devant, notre pépite Flo Daichi Kamada, qu'on avait recruté à Nice lors d'une partie perdue sur Football Manager, Lindström et Boré.
Tu as fait un très bon match, Kamada, d'ailleurs. En tout cas, très bonne fin de partie. Je crois qu'il avait été bon à l'aller aussi.
Passeur décisif. Et les buts, donc Philippe Kostic doublé, Raphaël Boré, passe D aussi de Philippe Kostic qui fait un grand match. Daichi Kamada pour la passe D sur le troisième but. Et derrière, Busquets et Depay pour les deux buts du Barça qui n'apportent rien. Alors, Christophe, pourquoi le Barça qui marchait sur l'eau en Liga ces dernières semaines et notamment nous avait régalé contre le Real Madrid, j'ai l'impression, s'est fait marcher dessus pendant au moins une bonne heure, voire plus, contre Francfort.
Alors, là, il y a un mini exercice d'équilibriste. Là, encore une fois, je vais pas faire...
Vas-y, mais tu es un funambule de l'analyse, donc on n'a pas peur.
Non, mais c'est ça, mais je come clean, comme c'est disent ça, les Anglais, c'est-à-dire que je fais pas comme les mecs qui, parfois, en télé ou en radio, te sortent des expertises sur 8 matchs qui avaient lieu en même temps, en faisant comme s'ils avaient tout vu. J'ai vu le match aller, et j'ai vu donc la seconde période du retour, et donc, du coup, j'ai tendance à extrapoler de ce que j'ai vu... de l'aller et de la deuxième mi-temps pour me dire que la période que je n'ai pas vue, il se passait globalement la même chose. Déjà donner des chiffres, mine de rien, parce que bon là je les ai en plus sous les yeux parce que je suis en train d'écrire une partie du banquet tactique. Une partie du banquet tactique de Copa Arena sur cette qualification-là. Au match aller, il y a 17 tirs à 6 pour Francfort, sachant qu'il y a 2 tirs du Barça, la 88e et 89e. Donc sinon, t'as 4 tirs sur 87 minutes. Dont une période de plus de 40 minutes où il n'y a aucun tir, alors qu'il y a 75% de possession du Barça. Et sur le match retour, il y a 10 tirs pour le Barça, mais par contre, Francfort, j'ai plus, mais je crois que c'est 15. Mais sur ces 10 tirs, il y en a 5 qui arrivent après la 90e minute. C'est-à-dire que concrètement, tu prends sur 175 minutes, en gros, t'enlèves les 5 dernières minutes du match aller et les arrêts de jeu du match retour. Le Barça fait 9 tirs. Et ça, c'est la première chose à noter, c'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes défensifs, et il y en a. Mais déjà, le Barça avait la balle, mais n'arrivait pas à s'approcher du but de Francfort, en tout cas pas à se mettre en position de tir.
Et pour moi, alors que contre le Real, il s'était créé des dizaines d'occasions, il faut préciser.
Et pour moi, vraiment, ça se joue sur l'agressivité, et l'agressivité dans le bon sens du terme, pas l'Atlético qui met des brins, mais vraiment la volonté de défendre en avançant. de Francfort, c'est-à-dire que là, et Florentine font le match à ce moment-là, même à 3-0, t'avais les centraux qui allaient chercher, qui allaient jouer l'interception sur les passes, qui allaient chercher à la médiane, quitte à se rater, t'as Indica qui rate une interception, et derrière, il faut que ça soit, je crois que c'est Kostic qui fait à moitié le retour, t'as 50 mètres à défendre sur Dembélé qui est tout seul, avec le terrain à remonter, mais ce côté-là, on prend l'adversaire à la gorge, on l'étouffe, ça met une intensité à laquelle le Barça n'était pas forcément prêt à répondre. Et vraiment, normalement, tu dis Gavi, Busquets, Pedri, ok, tu vas aller les chercher très haut de manière très agressive, ils vont sortir de la pression, en fait, ça va se retourner contre toi. Et non, pas du tout. Vraiment, les deux pistons, Knauf et Kostic, partaient limite de Dembélé, mais si la moindre passe négative, ils allaient chercher Alba et Minguesa, les deux latéraux. Et même chose à l'aller, hein, c'était vraiment ça. Tu démarres sur les ailiers, mais si t'as la moindre passe un peu sur laquelle tu peux sortir, bah, tu vas chercher les latéraux adverses. Pressing dès la première relance à 3, Lindstrom, Boré, Kamada avec Rodo, Jakic assez haut. Centraux qui dédouble notamment à l'aller où Ndika se retrouve assez régulièrement dans la surface adverse et pareil Tuta se retrouve aussi dans la surface adverse sur l'action sur le penalty obtenu, c'est lui qui rate la balle mais il se retrouve en position de 9 sur une attaque placée, vraiment un côté on court comme des malades et si on est battu ben on fait la course dans l'autre sens parce que forcément tu défends en avançant mais parfois t'es éliminé et là-dessus notamment Kamada aidait énormément. Donc vraiment abattage physique assez énorme, mais aussi l'ambition de se dire on va pas les regarder jouer. Ok, il y a des moments t'es obligé d'être en bloc bas, mais moindre passe négative t'avances et t'avais régulièrement des supériorités numériques parce que tu récupérais un ballon et à l'opposé t'avais 3-4 mecs libres et ça peut quand il y a 3-0, il y a genre 4 occasions où ça peut faire 4, 5, 6, 7, 0. Donc non, très impressionné par la dimension physique de Francfort, qui est une équipe qui fait une saison assez banale en Bundesliga, même si ça va un peu mieux, ils sont 9e, ils vont sans doute pas être qualifiés pour l'Europe l'année prochaine. Et là, honnêtement, sur l'aller-retour, tu dis, mais Barcelone n'a pas vraiment pu jouer, quoi.
Petite question pour Flo, parce que je pense que Christophe le sait. À ton avis, Flo, dans quel club allemand a commencé, enfin allemand, pas forcément allemand d'ailleurs, mais dans quel club a commencé à se former Oliver Glasner en tant qu'entraîneur, donc le coach de Francfort aujourd'hui.
Salzbourg.
Oui, exactement.
C'est bizarre.
Bien joué. Il est même né là-bas. Hein. Du coup, pour le coup, c'est un Autrichien donc qui a commencé sa carrière d'entraîneur là-bas en étant adjoint, en faisant des intérims au RB Salzbourg ou à Liefering d'ailleurs, qui est une antichambre de l'institut de l'entreprise Red Bull. Et donc, qui vient avec Francfort pressé comme un malade au Camp Nou, sachant qu'il avait déjà obtenu des qualifs européennes avec l'ASC. Je sais jamais comment ça se dit, si on dit comme ça, vous faites
oui, Linz, ouais.
Avec l'ASC et avec Wolfsburg aussi. Donc c'est pas la première fois qu'il fait des coups avec des équipes relativement modestes.
Bah, il était, ouais, c'est lui qui qualifie Wolfsburg pour la Ligue des Champions avant de partir cet été, ouais.
Ouais. Et du coup, Wolfsburg avait récupéré l'équipe.
Et il y a un truc aussi qu'évoquait Christophe, en plus de la défense en avançant, ce sont les projections derrière. C'est-à-dire que une fois que la balle était récupérée, ben, on s'arrête pas, quoi. Et globalement, j'ai presque envie de dire que c'est pas non plus très surprenant. C'est-à-dire que le Barça de Xavi qui roule sur la Liga depuis quelques semaines maintenant, qui met 4-0 au Real, etc., etc. Là, ils sont tombés, c'était un peu le choc des cultures, à mon avis, ce match-là. Parce que, il n'y a pas d'équipe comme ça en Liga. Clairement. Ça n'existe pas dans ce championnat qui manque justement de cette intensité-là très souvent. Ouais. Et là, ils ont pris un gap, ils ont pris quelque chose à laquelle, il n'était pas préparé, je pense, à laquelle il ne pouvait pas rivaliser, ne serait-ce que sur le plan physique et la capacité à faire autant de courses donc, que leurs adversaires.
Ils ont perdu comme d'habitude en Coupe d'Europe, en fait, Christophe, ces dernières années. C'est le même genre de défaite contre le Bayern, contre Liverpool, dépassé par l'intensité.
Oui, totalement, même si je pense que...
Contre la Roma aussi, j'oubliais le retour à la Roma.
Ouais, même si la Roma, enfin, je le mets légèrement en dessous, il y a un pressing très chiant de la Roma, mais il y a, je trouve, moins d'intensité que Bayern ou Liverpool. Mais pourtant, c'était quand même relativement identifié par Xavi et le recrutement d'Adama Traoré, de Ferran Torres et d'Aubameyang, qui sont trois joueurs qui viennent de Première Ligue, répondaient a priori à ce besoin d'avoir plus d'intensité, d'avoir identifié que le côté possession pouvait parfois être un petit peu lancinant, sauf à du coup être tellement au-dessus que la question de l'intensité se pose pas parce que tu peux un peu tout éteindre. Mais là, ça n'a pas suffi. Et ce qui est quand même fou, c'est que t'as quasiment le milieu de l'Espagne. Je dis quasiment parce qu'en fait, ils sont souvent 2 sur 3 à jouer, mais ils ont jamais joué ensemble. Mais Gavi, Busquets, Pedri, C'est quand même deux des trois, et le troisième qui se rajoute en Pedri, de la sélection espagnole qui avait pris la balle à l'équipe de France en Ligue des Nations et qui avait fait finale en sortant l'Italie avant. Et pourtant, même ce milieu-là, avec notamment Busquets qui n'était pas incroyable, explose quand tu lui mets du rythme et quand effectivement, comme disait Florent, il y a tellement de projections qu'en fait, t'as l'impression que les mecs jouent à 13, mais c'est juste qu'en fait, il n'y a personne dans ces 40 mètres parce qu'ils sont tous à aller te chercher, quoi.
Alors qu'en plus, c'est des bons joueurs, hein, mais c'est des joueurs qui sont individuellement moins forts que ceux que l'Espagne a rencontrés sur les derniers tours de l'Euro ou la Ligue des Nations. C'est plus une question de collectif et d'intensité collective que de niveau individuel des joueurs. Je veux dire, Yakit chez Rode, t'es pas censé te faire retourner par un milieu pareil.
Ah oui, non, je suis pas persuadé que ce soit des très bons joueurs, d'ailleurs, les deux. Mais dans ce contexte-là, d'ailleurs, si Francfort, dans une ligue, dans un championnat où tout le monde à peu près met de l'intensité, le fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et d'ailleurs, je me demande aussi si le côté défense à 3 en plus ne change pas les repères, parce que t'as quasiment personne qui joue à 3 derrière. Genre, au-delà de l'intensité qui est déjà chiante, ce côté les pistons qui vont chercher très haut et du coup quand ça récupère, bah non seulement t'as les 3 mais en plus ça fait 5 si les pistons se projettent pour défendre à quatre défenseurs face à une ligne de 5 quand tout le monde se projette. Je me demande en fait à quel point le Barça déjà, est juste pas habitué à ce type de problème.
Dans le top 9, j'en vois pas la Liga des équipes qui jouent à 3. Real, Barça, Séville, Atlético, Betis, Real Sociedad, Villarreal, Atlético Bilbao, Valence. Non, il n'y a aucune équipe qui joue à 3 là.
Non, ça joue en 4-4-2 la plupart. Ou 4-3-3.
Oui, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Ouais. Sinon, mais c'est vrai. Le Barça est à nouveau sorti. Bon, ils ont d'autres. Je pense pas qu'ils vont être catastrophiques. Ils vont être déçus. C'est quand même un gros coup sur la tête de Xavi, mais ça n'effacera pas les bonnes choses en Liga. Par contre, c'est vrai que sur la scène européenne, il va falloir qu'ils réagissent par rapport à ça, même si on a vu le Real passer contre Chelsea en étant dépassé une bonne partie du match sur l'intensité. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite si vous n'avez plus rien à dire sur Barça-Francfort, messieurs. On va commencer par Real-Chelsea. C'était le match de mardi soir. Pendant que
Villarreal sortait le Bayern.
Pendant que Villarreal sortait le Bayern, exactement. Match qu'on n'a pas vu, donc on n'en parlera pas.
Si, aperçu. Pareil, c'était le petit écran. Rapidement, c'était le match attendu entre ces deux équipes-là, c'est-à-dire un Bayern qui domine, et là c'était vraiment un attaque-défense. À l'inverse de l'aller où la première mi-temps est très équilibrée et Villarreal fait jeu égal, notamment en termes de tir et devant au tableau d'affichage. Là, c'était vraiment un attaque-défense. Villarreal avait beaucoup de mal à sortir. Par contre, ils ont très bien défendu en bloc bas, ce que n'avait pas su faire Salzbourg, par exemple, lors du match précédent, du huitième de finale. Et eux ont tenu. D'ailleurs, le but qu'ils encaissent, finalement, c'est un but, hein. C'est une erreur de relance de Dani Parejo qui tergiverse beaucoup avec le ballon et qui finalement fait une passe horrible. Je crois qu'il est intercepté par, je sais plus si c'est Gnabry, je sais plus si c'est sur le terrain à ce moment-là. Et ça revient très vite sur Lewandowski, et Lewandowski termine, et ça fait donc 1-0 pour le Bayern. Mais derrière, il y a ce bloc bas de Villarreal qui continue de tenir, comme ils l'ont fait dans d'autres matchs, ils ont montré qu'ils étaient capables de souffrir, à l'aller aussi d'ailleurs. Et un Bayern qui en fait a multiplié les tirs, mais a eu très peu de grosses occasions. Müller en rate une, qui est à 0,33, je crois, une tête dans les 6 mètres. Il y a eu beaucoup de centres, il y a eu beaucoup de projections dans la surface, mais ça a tenu côté Villarreal, avec les mêmes bases qu'à l'aller. Et finalement, il y a eu cette sortie de balle en toute fin de match, où là encore, c'est Parejo à la base, où tu te dis, putain, il va pas le faire deux fois, et finalement, cette fois-ci, il fait une bonne passe, et ils amènent l'action jusqu'au bout, et c'est Chukwueze qui les qualifie à la 88 ou 89e.
Le Chouk.
Donc, le Chouk, ouais. Et c'est vrai que quand on voit les XG sur l'ensemble des deux matchs, certes le Bayern je crois est un petit peu devant, mais en fait ce qui fait la surprise et le sel de cette double confrontation, c'est que au départ tu t'attendais à une promenade un petit peu pour le Bayern sur l'ensemble des 180 minutes au moment du tirage au sort, et en fait tu vois avec les XG que ça a été beaucoup plus équilibré que prévu, et que finalement quand c'est équilibré ça peut basculer d'un côté ou de l'autre,
sachant
et là ça a basculé côté Villarreal.
Ça nous rappelle aussi le besoin de contextualiser les XG, et que parfois les XG peuvent être élevés parce que c'est une accumulation de petites occasions.
Ouais. Et là, on était typiquement sur les deux rencontres, enfin, match aller et retour. Il y a beaucoup de tirs pour le Bayern. Je pense qu'ils doivent pas être loin des 40 tirs, je pense, si t'additionnes les deux, de mon souvenir. Mais globalement, très très peu, comme tu le dis, de grosses occasions et de, Je peux pas dire qu'ils ont manqué de réalisme, en fait. Ils ont vraiment pas eu de grosses situations sur les deux matchs, à part notamment Müller au retour.
Ils ont 23 tirs au retour, Flo.
Je pense qu'ils avaient passé les 20 à l'aller, mais j'en suis pas certain.
Et à l'aller, je vais dire ça, 23 plus les 22 de l'aller, 45 tirs pour un but pour le Bayern.
Oui, et des XG, ils doivent être à 2,5, 2,6, je pense, sur les deux matchs au niveau des XG.
Donc ça fait 0,10 ou moins par tir. Non, même moins, 0,05. Non, beaucoup moins.
Ouais.
0,05 par tir, c'est quand même pas grand-chose. Je ne sais pas, selon les sites, à partir de combien c'est une grosse occasion, tu vois.
Généralement, c'est plus de 0,30.
Ah ouais, c'est énorme. Parce que 0,30, c'est quand même des vraies occasions de footballeur. Hein. Si t'es bon, alors j'ai... Enfin,
ouais.
Quand c'est je des crois... grands joueurs, 0,3, ça rentre souvent.
Alors, on va pas faire 20 minutes là-dessus, mais je crois que pour certains organismes de stats, c'est à partir de 0,30 et des poussières, c'est une grosse occasion. Ouais. Et pour d'autres organismes, on décide par occasion, c'est le gars qui décide sans rapport avec le XG. Ouais, exactement.
Le collecteur de données. D'accord. Ben on va passer à Real Chelsea qui s'est terminé sur le score de 3-2 comme le Barça Francfort avec le même scénario 3-0 puis 3-1 puis 3-2 sauf que là le 3-1 était beaucoup plus important parce que c'est le 3-1 qui a remis le Real en vie. Les compositions: Courtois dans les buts côté madrilène, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy derrière, un milieu à 3, Casemiro, Modric, Kroos classique, une attaque à 3, Vinicius, Benzema et Valverde qui complétaient cette attaque mais à la fois aussi ce milieu. Du côté de Chelsea, Edouard Mendy dans les buts, une défense à 3, Rhys James, Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Loftus-Cheek dans un rôle à droite mais pas seulement, on va en reparler, Marcos Alonso à gauche, Kovacic et Kanté à l'intérieur, Mount avec Havertz et Werner dans les trois de devant où ça a pas mal bougé. Christophe, on a tous regardé ce match, parce que c'était quand même un match qui promettait, sachant que Chelsea avait quand même été mal payé à l'aller et que Modric et Benzema avaient fait un grand match, comme ils l'avaient fait d'ailleurs contre le PSG. Bon, bah Chelsea a fait un match bien meilleur qu'à l'aller, parce que Tuchel n'était pas du tout content, bien meilleur qu'à l'aller. Un vrai beau match de Chelsea qui, collectivement et individuellement, a sorti d'une grande prestation. Mais par contre, bah, y a toujours Modric et Benzema qui sont à nouveau d'ailleurs les deux joueurs les mieux notés du côté madrilène sur WhoScored. Je pense que c'est pareil sur pas mal de sites de stats. Donc c'est à la fois très cliché et très évident, mais c'est là quand même la compétition des grands joueurs.
Oui, c'est vrai que l'aller pour moi était équilibré et la différence s'était faite évidemment sur les individualités et aussi sur le côté de Chelsea. Du côté gauche avec Aspi qui avait pas été ultra bon et du mauvais pressing où du coup je pense Tuchel devait sentir qu'en fait son équipe au-delà des individualités s'il avait été bonne aurait déjà pu potentiellement gagner l'aller et là il a été obligé d'inventer des choses pour le retour. Je pense qu'il se disait au-delà de ce qu'il a pu repérer hein, comme faille du côté du Real, je pense qu'il s'est dit si je fais un match entre guillemets logique je vais peut-être gagner 1-0, 2-0 mais enfin, il faut que je mette vraiment de la folie, donc du coup, le truc vraiment inventé. Alors, évidemment, il y a des choses, des espèces de micro-tactiques qui peuvent exister de manière générale, qui sont pas forcément des choses au long cours, mais que tu peux sortir de temps en temps, notamment les rotations sur les côtés, quoi, d'avoir, Rüdiger qui monte, qui va fixer, Kovacic qui peut partir côté, qui va permuter avec Werner et Alonso. D'ailleurs, sur le troisième but, Alonso est en position de 9, Werner, je crois, est collé sur le long de la ligne de touche, puis ensuite il part pour lancer Kovacic. Enfin bref, il y a toute une... Quoi, Kovacic lance Werner qui ensuite se ressent. Enfin bref, il y a toute une rotation où c'est quelque chose qui existe du côté de l'Union Saint-Gilloise, du côté de Lens. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est. Oui, c'est des clubs sur lesquels on écrit et qu'on suit.
Il y a un placement hebdomadaire de l'Union Saint-Gilloise maintenant.
Sur laquelle on a écrit sur Copa Arena en plus. Ouais. Mais non, mais c'est pour dire aussi que si tu veux, c'est pas réservé aux très 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 grands coachs de niveau Ligue des Champions ou aux très 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 grandes équipes, que c'est juste une articulation qui demande un peu de travail, mais qui est assimilable par des joueurs d'un niveau moindre. Par contre, la vraie invention sur ce match, c'est l'utilisation de Loftus-Cheek, qui est du coup le binôme qui est fait avec Rhys James, même si le côté Rhys James recentré en troisième central qui peut passer côté, là aussi c'est quelque chose qui est fait par l'Union Saint-Gilloise notamment, mais qui peut être fait par Kyle Walker du côté de City.
Il me semble que c'est pas non plus la première fois que Rhys James joue ce poste-là. C'est déjà arrivé lors des 18 derniers mois. Il me semble qu'il joue quand même intérieur droit comme ça.
Sachant que oui, c'est
parce qu'il manquait les centraux.
Tu vois la comparaison avec Kyle Walker, c'est en gros les mecs qui ont l'habitude d'être sur le côté et qui ont cette vitesse, qui peuvent un peu assurer la couverture, mais qui ont ont la qualité aussi de passe pour faire la première relance. Par contre, Loftus-Cheek, qui déjà est piston, c'est pas son rôle. Il a déjà joué un peu côté, mais c'était plus en tant qu'ailier, un peu pour dépanner, mais qui est piston, mais qui ensuite va se recentrer pour être relayeur, qui en gros, un coup, va étirer Mendy pour que Mendy aille le long de la ligne de touche et que Kai Havertz se projette dans l'espace.
C'est du Valentin Rongier.
Oui. Ou qui se recentre pour être dans le dos de Toni Kroos. Alors oui, c'est du Valentin Rongier, mais c'est, enfin, je trouvais vraiment que ça s'adaptait tellement aux situations que c'est limite du jamais vu. Enfin, en tout cas, j'ai rarement vu ce côté, vraiment, un coup il va faire l'un, un coup il va faire l'autre sur des situations où, tu vois, c'est moins mécanique que, bah, on perd la balle, je descends côté droit, ou on l'a, je me recentre vraiment, comme même ce que fait Cancelo, qui vraiment lui a tendance à toujours se recentrer en possession, mais qui va pas sur des phases, un coup, tiens, je vais sur le côté pour étirer, tiens, je me recentre, tiens, je repars côté.
Oui, parce qu'en fait, si tu le laisses si tu as besoin d'interpréter, ça peut vite partir en sucette. Et là, si ça a été juste, c'est aussi la force, l'intelligence du joueur et la qualité de l'explication du coach pour que ce soit assez simple pour qu'il lise vite et intelligemment ces choses-là. Parce que c'est un truc ponctuel pour un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là, pas l'habitude de jouer tout court, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même jamais un titulaire de Tuchel, le Sud-Chic quasiment. Et Harris James qui en plus n'est pas non plus hyper habitué à ce poste-là. Mais ça a très très bien marché pour gérer à la fois Vinicius et emmerder Toni Kroos, qui est encore sorti d'ailleurs.
Oui, et qui n'était pas content de sortir, mais il a été
à chaque remplacé fois qu'il sort, le Real va, à chaque fois qu'il sort, le Real va mieux en Ligue des Champions, donc je pense qu'à un moment, il faut qu'il se pose la question. Et Carlo Ancelotti va se la poser aussi, je pense, à terme. Parce que
Camavinga fait de bonnes entrées en plus.
Bah, hein, mais ouais. Ça fait trois fois de suite, là.
Ouais.
PSG, Chelsea aller, Chelsea retour. Si tu fais le plus-minus, j'ai l'impression que je crois que le Real a marqué aucun but avec Kroos sur le terrain sur les trois matchs.
Bah si, l'aller.
Si, à l'aller, oui.
Ah oui, oui.
C'est en
oui,
première,
oui.
Les...
C'est vrai. Oui, mais c'est le facteur, ouais. Après, ça vient pas de lui, quoi. Mais en effet. Mais par contre, sur le PSG et Chelsea, c'est quand il sort que le Real revit. Alors, c'est pas que grâce à ça, hein. Mais ça joue vachement. Et Modric n'est jamais sorti après Modric. J'ai l'impression d'une autre espèce. Donc,
ouais, bon, cet Exter.
Voilà, non mais il y a ça, et puis le fait qu'il...
Sur l'Exter...
Il enchaîne des matchs de 90 ou 120 minutes à 36 ans, et ça
c'est... Ça permet de replacer le truc, puisque tu l'as fait en interview, Adrien Thomasson, on vous renvoie vers lui, mais oui. Thomasson, qui nous a évoqué sur Copa Arena, donc on vous invite à aller écouter l'entretien, qui date d'il y a un peu plus d'un mois maintenant, où il nous expliquait qu'il avait qu'il avait essayé de travailler pour avoir l'extérieur du pied de Modric, et que donc il avait fait beaucoup de choses, des étirements spécifiques, de la proprioception, il me semble, même si je sais pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, mais c'était ce terme qui avait été employé, et il avait fini en disant j'ai arrêté parce que on commence à se foutre de ma gueule parce que j'y arrivais pas, etc. Mais c'est quelque chose d'assez unique d'avoir une cheville aussi souple, et c'est intéressant d'avoir justement des joueurs d'autres joueurs qui t'en parlent et en disant j'ai essayé de faire pareil mais physiquement j'y arrive pas, quoi.
Sachant que là on a vu l'extérieur, mais à l'aller il avait claqué un centre intérieur pour Benzema,
c'est vrai, le rentrant
qui était dans la zone parfaite, juste par-dessus un des centraux, je pense. Il me semble que c'était Thiago Silva,
oui, où Benzema la remet côté opposé,
c'est ça, Bon, Luka Modric, qui d'ailleurs, je sais plus de qui il a déclat, c'est un grand joueur quand même, peut-être de Casillas, qui disait que bon, ça y est, il était du même niveau que Xavi et Iniesta, et on avait eu le débat la dernière fois, Christophe, d'ailleurs.
En
nous rappelant notre liste des 120, et c'est vrai que là, il y a encore un... Ça va faire quand même beaucoup de grands matchs dans la carrière de Modric, en plus dans des contextes collectifs difficiles. Hein. C'est pas Thiago Alcantara qui rentre dans le meilleur Barça de l'histoire et qui s'éclate. C'est Modric qui continue de sublimer un Real qui collectivement se fait devancer à chaque fois, mais qui s'en sort toujours. On avait parlé de Benzema beaucoup lors des matchs précédents. Là, Modric, Christophe, ça reste. Je sais plus trop quoi dire, en fait, parce qu'il a un nombre de matchs à 35, 36, 34 ans qui devient aberrant de ce niveau-là.
Oui, non, du coup, je sais pas trop quoi dire non plus. Je pense que cette passe-là, alors on verra ce qui se passe pour le Real sur la suite de la compétition, parce que, pareil, c'est ce que j'écris sur le Copa Arena, qui sortira dans quelques heures. Tout ce qui a été brillamment fait par Chelsea devient rapidement anecdotique quand t'es éliminé. Je pense que, tu vois, tout comme le faux neuf de l'Espagne face à l'Italie, c'était hyper bon avec Olmo, et au final tout le monde a oublié parce que l'Espagne est éliminée. alors que l'Espagne fait son meilleur match de la compétition. Je pense que rapidement, ce match-là de Chelsea, on se dira, on se souviendra en gros de, ah, il y a 3-0, il y a un but refusé pour une main, il y a un arrêt de Courtois, ça peut faire 5-0, voilà. Mais on se souviendra
de Moi, je me souviendrai que le banc de Chelsea a rien apporté aussi. Et ça, c'était quand même un problème du match.
Parce oui. Est-ce que tu t'en souviendras dans 5 ans, franchement?
Non, mais quand tu revois Pulisic, Ziyech, Jorginho, Saul qui rentrent, quand même censés être des bons joueurs, et ils apportent zéro dans la... Ils ont quand même du temps de jeu, ils apportent rien.
Mais...
Et on parlait de Camavinga, mais en termes d'entrée en jeu, ça fait aussi plusieurs matchs.
Parce
c'était notamment au retour, Rodrigo. Qui égalise.
Ouais, c'est lui qui qualifie.
Qui réduit le score, là.
Et face à Paris.
Et qui contre Paris, voilà, est aussi décisif. Ouais.
Mais non, mais tout ça pour dire que, parce que je fais toujours des détours dans mes explications, tout ça pour dire que Modric, on verra en fonction du parcours du Real, si le Real prend une branlée au tour suivant, je sais pas à quel point ce geste restera dans l'histoire un peu de la Coupe d'Europe. Par contre, si le Real fait finale ou va au bout, alors évidemment, il y a déjà le tour d'avant où la qualif face à Paris sort un petit peu de nulle part. Donc du coup, il y a le pressing de Benzema sur Donnarumma. Mais ce geste-là restera, je pense, dans les passes décisives les plus marquantes de même de l'histoire du foot, finalement, si le Real va jusqu'au bout, parce que ça peut être un peu l'équivalent du but d'Iniesta. Alors, t'as un peu plus de travail à faire là, mais que le but d'Iniesta face à Chelsea, quoi, qui change quand même pas mal la destinée du foot, mine de rien, quoi.
C'est dur de se souvenir de passes en plus comme ça marquantes. Les buts, c'est facile, tu dis ah oui, tel but, mais des passes, c'est plus rare. Je sais pas si vous en avez comme ça qui vous viennent en tête.
Bah, tu passes vite sur la talonnade de Guti, sur Redondo, ouais, mais c'est plus le préparatoire que la passe en elle-même.
Mais, mais par contre, des passes qui te qualifient ou des passes qui changent le destin d'un match décisif, j'en ai pas 3000 qui me viennent là. Tu vois, alors Iniesta par exemple, 2009 là, contre Chelsea, la passe est hyper banale, c'est une passe à plat.
D'ailleurs,
il y a pas Kaka qui frappe fort. Il n'y a pas Kaka qui fait une passe de malade en profondeur dans un match là.
Mais c'est, c'est la finale de Ligue des Champions que Milan perd.
Mais je pense qu'il en a. Je la vois où il a donné à Crespo. Mais je crois qu'il en a fait d'autres.
C'est pas
contre. Ou alors il marque sur ce match. Je sais plus. Les gens nous le diront.
Ah, j'en ai une. T'as le corner d'Arnold pour Origi.
Oui.
Ouais.
Avec le mec qui fait le ramasseur de balles qui lui fait la passe, qui est maintenant le meilleur buteur anglais en moins de 16 ou moins de 17 ans, qui écrase absolument, qui a un nom rigolo d'ailleurs, il a un nom français, je sais plus ce que c'est. Mais oui, non, c'est vrai que des passes, tu vois, moi, à la limite, je revisualise le but et du coup, j'arrive à remonter jusqu'à la passe, mais c'est pas la passe en tant que telle qui me fait tilter, quoi.
Le super centre de Roberto Carlos pour Zidane en 2002. J'ai pas vu vos têtes, donc je sais pas à quoi ça ressemblait, mais c'est quand même une passe difficile.
Bah non, mais surtout qu'il la met sur le mauvais pied de Zidane, donc du coup, c'est pas.
Mais Zidane n'a pas de mauvais pied.
Je préfère celle qui est mise à Trezeguet en finale de l'Euro 2000, quoi.
C'est pour ça que je réfléchis. Il faut un peu s'il faut des matchs serrés, tu vois. Donc je me rappelle pas, par exemple, de Bayern Dortmund, je me rappelle pas s'il y a une passe très importante en 2000.
Moi, j'ai un truc, je sais pas s'il passe ou il marque, mais j'ai retrouvé le match, c'est Coupe Ligue des Champions 2007. Demi-finale entre le Kaka donc Kaka Milan AC et le United de Rooney et Ronaldo.
Ouais.
Et c'est Kaka qui fait un match monumental, mais je sais pas s'il fait une passe D ou s'il marque sur ce match-là. Je me rappelle plus.
Je sais pas. C'est peut-être la confrontation en plus où il élimine deux joueurs de United qui se rentrent dedans là.
Et ouais, c'est ça. L'épaule.
Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là.
Mais du coup, même s'il a fait une belle passe dans le même match, on a tendance à l'oublier un petit peu. Je pense que Sneijder en 2010 doit en avoir sur le parcours de l'Inter. Je pense qu'il va y avoir 2-3 passes, notamment les matchs contre Chelsea là. Il me semble qu'il a une passe à un moment contre Chelsea à l'extérieur qui est décisive ou quelque chose comme ça. Mais c'est très très difficile de se souvenir des passes en fait. Et, on s'en rend compte. Pourtant, on adore. Je pense qu'on en vue du bon. On aime autant les passeurs que les buteurs. Mais je me souviens du centre de Shaqiri pour Wijnaldum contre le Barça. Mais bon, c'est pas non plus.
Hier, j'ai vu passer à nouveau, mais c'est vraiment le truc le plus hipster possible. Mais je crois que c'est Xavi qui fait une espèce. Ou Busquets. Qui fait une passe écran sur le but de Messi face au Real en demi-finale d'un classico où Messi ensuite élimine 4 mecs pour terminer par un tir croisé pour le doublé. Et en gros c'est la passe, mais en fait c'est un peu comme les end of pass en NBA où en fait tu fais écran, tu donnes la balle et le mec arrive lancé et la prend.
Il y avait eu un bloc comme ça de Thomas Müller sur Jordi Alba lors d'un match Bayern-Barça, il me semble. Il y a Thomas Müller qui fait un énorme bloc sur Alba qui l'empêche d'intervenir. Et du coup c'est pas des passes, c'est vraiment des écrans à la
C'est ça. Bon, là, il touche la balle quand même, effectivement. Et juste pour l'anecdote, parce que peut-être que le mec deviendra très connu, c'est Oakley Canonier. Et c'est pour ça que le nom m'avait
fait. Ah oui, c'est ça.
Qui est le mec qui avait filé rapidement la balle à Alexander Arnold pour le corner, qui a 25 buts en 21 matchs avec les U18 de Liverpool et qui est assez nettement le meilleur buteur U18 en Angleterre et qui sera peut-être avec l'équipe première de Liverpool d'ici un ou deux ans. Donc,
qui a plutôt un nom à jouer à Arsenal, mais tant mieux pour Liverpool s'il est performant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur peut-être sur Chelsea, qui on a parlé de la performance collective, c'est vrai qu'il y a un plan qui a marché en fait, Flo, mais qui n'a pas assez marché ou qui a été sanctionné sur d'autres failles, mais ce qu'a voulu faire Tourelle offensivement pour rattraper le retard du match aller, ça a vraiment fonctionné. Chelsea finit quand même à 28 tirs au Bernabeu. Alors il y a les prolongations évidemment, mais ça reste tout de même un chiffre énorme, c'est 28 tirs contre 10.
Oui, non, c'est une grosse perf, mais bon, c'est le côté frustrant, je pense, quand t'es coach, c'est que quand tu sors un plan pareil et que ça fonctionne, mais qu'il n'y a pas le résultat espéré au bout, parce que finalement, il gagne le match, mais bon, ça suffit pas. Et donc ça, ouais, il y a forcément une frustration. Mais bon, Julien sur YouTube s'est chargé d'immortaliser ça, puisqu'il a sorti une analyse vidéo.
On vous redirige donc vers sa vidéo YouTube si vous voulez plus de détails de ce match. On aurait pu faire une heure sur ce match-là, mais il y avait beaucoup de choses en Coupe d'Europe cette semaine.
Et puis c'est 20. Et puis encore une fois, c'est 20. Non, mais voilà, c'est aussi, tu vois, il y a un moment, il y a le côté, tu parles dans le désert, quoi. Si tu fais une demi-heure pour dire à quel point Chelsea est génial, on va te renvoyer au fait que malgré tout.
Après, j'ai envie de te dire qu'on l'a souvent fait dans Vue du Banc, quand même.
Oui, c'est ça.
De mettre en avant des équipes qui ont perdu.
Mais à chaque fois, on se fait tracher par tous les fans de Madrid qui nous détestent. Parce qu'à chaque fois, on dit que Madrid, soit ne sait pas presser, soit ne joue pas bien collectivement, et qu'il gagne à chaque fois, et c'est plutôt véridique. Mais...
Le truc, c'est que sur les quarts et les deux, sur les huitièmes et les quarts, pardon, ils ont 30 minutes par match, en fait.
Ouais, ouais.
Et encore. Mais bon, ils ont des joueurs d'une telle qualité, enfin, 2-3 d'une telle qualité. Vinicius aussi, sur la passe D pour Benzema, c'est une vraie belle passe D.
Ils ont du mental aussi, parce que...
Ah oui, ça, pour le coup, quand t'es mené 3-0 par ce Chelsea-là, tu peux te dire, oula... Ça va être compliqué. D'ailleurs, il y a une occasion de 4-0 avec un Courtois qui sort encore un arrêt.
Sur un vert, ouais.
Un arrêt important sur un corner. Et Antonio Rüdiger, mouvement encore, fait beaucoup rire avec ses expressions faciales sur ce match-là. Même à la 120e, quand ils sont tous éliminés, tous les joueurs de Chelsea tombent par terre et lui, il a encore des yeux de fou, il s'énerve, il crie. Cet homme est différent.
Mais est-ce autant que Felipe?
Ah, bah merci pour la transition. On va parler du chevelu Felipe et sa coupe à passer sur NRJ 12. Et on va commencer par les compos.
C'est vrai que ça fera un bon Marseille,
Felipe. Ah ouais,
c'est vrai.
Pas le plus brillant.
Non.
Même s'il n'y en a pas très, vraiment des brillants. Donc, match au Wanda Metropolitano. Il y avait eu 1-0 pour City à l'aller. But de De Bruyne sur une passe de Foden. Les compositions. Oblak dans les buts. Défense à 5, ou à 3, ça dépendait des phases. Avec Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Renan Lodi. Un milieu de terrain à 4 avec Griezmann à droite, Thomas Lemar à gauche. Kondogbia et Koke dans l'axe. Et Joao Félix seul devant. Mais pas de 5-5 cette fois, c'était vraiment un 5-4-1. Du côté de City, Ederson dans les buts. Une défense à 4. Walker, Stones, Laporte, Cancelo. Un milieu Rodri, De Bruyne, Gundogan. Et une attaque Mahrez à droite, Foden en pointe. Et Bernardo Silva à gauche. C'est une composition, Flo, qui annonçait déjà que Guardiola allait être dans sa version contrôle, rigueur, patience, possession défensive, parce qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs de profondeur, et on a vu assez rapidement quelles étaient les intentions de City. Tenir le ballon, calmer le rythme du match, éviter les pertes de balles idiotes, que le match partir à un rythme de transition de but à but, ce qu'ils ont plutôt réussi à faire pendant 45 minutes.
Oui.
Et puis en gros, en deuxième, ça a complètement été chamboulé par la nouvelle intensité de l'Atletico qui s'est portée vers l'avant. Et là, City, je pense, a été emporté à la fois par ça et par le stade qui a été un grand acteur du match.
Ouais, et je pense que ce qui se passe dans les matchs comme ça que City veut contrôler presque à outrance, mais bon, comme tu le dis, ça fonctionne en général pour eux de procéder de cette manière-là, c'est que quand t'as un adversaire comme l'Atletico, je pense que l'idée de base, c'est en effet contrôle absolu, on garde la balle, Foden décroche, il y a très peu de courses vers l'avant, il y a très peu de profondeur.
Très peu de joueurs devant le ballon.
Ouais, très peu de joueurs devant le ballon. Donc on garde, on fait tourner, on se dit de toute façon l'Atletico ils vont pas sortir. Mais en fait, je pense que t'as vraiment ce côté-là chez l'adversaire, c'est d'arriver à la mi-temps où t'es à 0-0. Et je pense qu'il y a vraiment eu un truc où Simeone a dû faire passer un message du genre, et même les joueurs ont dû le ressentir, c'est bon. De toute façon, ils font rien avec la balle. On n'a pas été mis en danger pendant 45 minutes. Et ben allons les chercher, allons les provoquer, allons beaucoup plus haut. Et finalement, ben, c'est ce que l'Atlético a fait. C'est à partir du moment où tu veux trop contrôler et pas attaquer, l'adversaire qui ne se sent plus menacé, ben, il va venir te chercher, il va venir te harceler. Et quand l'Atlético a changé de rythme, comme tu l'as dit en deuxième, City n'avait plus de réaction. C'est-à-dire que le momentum du match avait déjà basculé vers l'Atlético et City n'avait pas d'armes, à la fois sur le terrain et finalement sur le banc, capables de re-renverser ce momentum, de réinstaurer une peur peut-être chez les défenseurs de l'Atlético, du genre ben on merde, on risque de s'en prendre un si on sort et parce qu'il y a machin qui est rentré. Et je pense que ça c'est vraiment dans le rapport de force mental et le fait de je fais peur à l'adversaire ou non qui explique un petit peu le scénario du match.
Est-ce que Foden dans l'axe, c'est pas lui enlever finalement sa spécificité, Christophe, parce que c'est toujours quand il peut recevoir le ballon dans les pieds ou partir dans le dos d'un attaquant grâce à sa vitesse qui fait mal. Et là, le fait de le mettre dans l'axe, j'ai l'impression que ça a enlevé à City la seule menace potentielle quand l'Atlético s'est mis à jouer plus haut.
Bah surtout qu'il n'y avait pas forcément une énorme permutation, quoi. C'est-à-dire que.
Oui, alors qu'il y a des matchs où ça bouge tout le temps.
Bah, c'est ça.
Je me rappelle, contre le PSG par exemple, où ils avaient limite 4 attaquants devant qui changeaient tout le temps.
Et c'est-à-dire qu'en plus, ça s'adapte. Enfin, tu vois, tu peux parfois te dire, ah, il y a tel profil, lui va dézoner, tel autre. Alors, sûr qu'à l'époque où il y avait Agüero, lui, il dézonait pas tellement. Mais je me souviens notamment du match face au Real Madrid. C'était en temps de Covid, quand il y avait
le Final Eight.
C'est ça, quand il y a le Final, bah, le match juste avant le Final Eight, où là, le City sort le Real avec Jesus, mais Jesus joue à gauche, en fait, la majorité du temps pour aller presser, et où City rend les ballons pour presser Varane, et Varane qui coûte 2 buts. Mais ça, c'était cadeau pour toi. Non, mais c'est pour dire que tu vois, tu peux jouer avec Jesus, et tu dis, ah, putain, le mec, même s'il y a un côté un peu faux neuf, ça reste un neuf, et au final, le mec va se balader sur les côtés, va jouer ailier, etc. Donc tu te dis, ok, Mahrez a priori va quand même plutôt partir de son côté pour se recentrer, etc. Autant tu peux tout à fait permuter avec Bernardo Silva, qui d'ailleurs la joue un cran plus haut, mais il y a régulièrement des matchs où là en gros la ligne de 3 derrière c'est De Bruyne, Rodrigo, Gundogan. Régulièrement c'est Silva qui sera à la place de Gundogan et t'auras un troisième vrai joueur offensif type Grealish, je crois que c'était la compo contre Bruges, celle-là. Et c'est vrai que tu te dis en fait... Dans l'absolu, je préfère Foden partant d'un côté que vraiment un neuf nominal. Maintenant, ça n'empêche pas, et je trouve que c'est pas tant ça le problème, c'est plus effectivement le fait que quand lui décroche, autour de lui, ça part pas en profondeur, et que finalement tu joues petit, en fait. Tu joues petit, mais tu joues pas bien petit, c'est-à-dire tu peux jouer petit, mais en gros, tu fais la possession défensive de l'Espagne 2010, quoi. C'est-à-dire l'Espagne 2010 pouvait ne jamais faire d'appel en profondeur, mener 1-0, elle décide de faire des passes à 4 mètres, mais elle faisait des taureaux et en fait tu la récupérais jamais. Et là quand City faisait son côté taureau, c'est-à-dire l'Atlético aurait pu se livrer comme disait Flo, genre en disant il n'y a pas de menace, et pim, c'est à ce moment-là que tu lances en profondeur et c'est terminé. Or là, quand sur l'aspect technique, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un déchet qui du coup limitait cette possibilité de faire de la conservation. En fait, la conservation... Je suis pas toujours contre, même si dès le début de match face à l'Atlético, c'était peut-être un petit peu too much. Mais c'est vrai que quand t'es ni menaçant en profondeur, que t'essaies pas trop d'attaquer et que tu perds des balles quand même assez facile et que du coup tu mets en confiance une équipe portée par son public qui sait mettre l'intensité au pressing, parce que le pressing, il y a des mécanismes, etc. Mais quand juste tu cours comme un malade et que tu jettes comme un malade, ça fait office de menace et ça devient difficile de jouer face à ça. C'est vrai que City a quand même assez vite déconnecté et franchement, moi, la deuxième période, elle est cataclysmique pour moi de la part de City, en tout cas par rapport au référentiel de cette équipe.
Ah, si ça tourne mal, ils peuvent en prendre 2 ou 3. Hein. C'est le genre de match, il y a 2-3 ans, quand ils font les mêmes périodes contre Liverpool, ils en prennent 2 ou 3.
Hein. Ah, tu vois, t'as la
séquence courte en plus.
Ouais. Mais du coup, c'est quand même Christophe nous le disait après le match, c'est quand même un des rares, c'est peut-être une des premières fois où City survit à un match pareil en fait.
Ouais.
Dans cette compétition surtout, parce que c'est vrai que t'as la reprise de Griezmann,
même la dernière action ils ont une occasion encore,
puis t'as la reprise de Griezmann en milieu de deuxième mi-temps à peu près, je crois qu'elle tombe celle-là, ou elle retombe pas loin du but d'Ederson, là, la reprise de l'entrée de la surface, mais bon, après parlons de Felipe aussi.
Oui, on va en parler Felipe, mais j'ai l'impression, Flo, que c'est une double confrontation où les deux équipes ont eu très très peur l'une de l'autre. L'Atlético, en étant très compact, le 5-5 petit à petit, en se disant on ferme les espaces et tant pis si on a 0-4 sur le match, en se disant bah, on va à domicile avec le public, avec l'ambiance, on va faire quelque chose. Et le retour où City a complètement joué avec, c'est plus que le frein à main en fait, c'est, on va tenir le ballon, on va jamais se projeter parce que si on prend le premier on sait pas ce qui va se passer. J'ai l'impression que Guardiola voulait vraiment faire 0-0 sur le match retour.
Bah, t'as peut-être ce côté, ouais, les deux équipes étaient dans la survie, en fait, à l'aller comme au retour, et chacune dans un rôle différent façon, à chaque fois.
Voilà, c'est ça,
oui, différemment, oui, bien sûr. Mais, et encore, parce que t'as des séquences en fin de partie où City a plus forcément de maîtrise ou quoi que ce soit, et ils sont 11 dans leur surface, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est le président de l'Atlético qui a fait une décla très gaufrée quand tu connais les habitudes de l'Atlético sur le plan tactique. Où il a dit, ils sont venus, ils n'ont pas joué, ils s'enroulaient par terre.
En deuxième mi-temps, l'Atletico a le ballon, ils ont plus de possession que City.
Je la retrouve, mais ouais, c'est réseau, je crois, le nom de l'Atletico.
Ouais, c'est ça. Et il y a un moment du match où on voit Guardiola commencer à péter un câble parce que ses joueurs perdent des ballons idiots au milieu de terrain. Christophe, ouais. Je ne sais plus qui c'est. Il y a un moment, il y a un joueur qui joue vers l'avant alors qu'il n'y a personne vers l'avant, donc tu sais que le ballon va être perdu quoi qu'il en soit. Du coup, contre-attaque de l'Atletico, et puis c'est, en fait, c'était que des transitions, et sur ce jeu-là, l'Atletico était meilleur. Et j'ai l'impression que le stade a joué un rôle énorme, Christophe, aussi, dans ce match-là, avec Simeone qui haranguait tout le temps les supporters, avec les joueurs aussi, des temps forts, des momentum, et un peu comme d'ailleurs ce qui s'était passé à Anfield pour City certaines fois, ce qui s'était passé pour le Barça. Et c'est vrai qu'on parle souvent de jeu, de tactique, de principe de jeu, de coach, etc. Mais là, la partie atmosphère a été, j'ai l'impression, hyper importante, et je pense, était limite l'atout principal de l'Atlético en deuxième période.
Sachant que l'atmosphère joue aussi parce que tu joues comme ça. C'est-à-dire, si tu fais le 5-5-0 de l'aller, il n'y a pas, pas de raison. Ou même si tu gagnes l'aller et que du coup... Enfin, à mi-temps, si tu gagnes l'aller et que tu es en mode total défense, le stade peut aussi s'enflammer pour des tacles parce qu'à l'Atlético, ils sont quand même assez contents de ça. D'ailleurs, c'est quand même bien de voir que tu changes de stade, mais que tu gardes quand même cette ambiance. Ouais.
Ça, c'est plutôt cool.
Parce qu'il y a pas mal de stades où tu te délocalises, notamment en Angleterre, et au final, tu te rends compte que tu perds un petit peu l'âme qu'il y avait avant, mine de rien. Alors, au-delà du stade, aussi, quand même, souligner, je trouve, le super match de Kondogbia, qui fait quand même une très très bonne saison, qui sort un petit peu nulle part. Faut se souvenir quand même que Kondogbia se retrouve à l'Atlético en cours de saison. Il me semble que je sais plus si c'était en novembre ou autre, mais en tout cas, c'était hors période de transfert, parce qu'il critique le président de Valence à l'époque où il est à Valence. Et il se fait dégager, en fait. Il se fait dégager par Valence.
Il joue pas beaucoup quand il part à l'Atlético la saison.
Et effectivement, moi, du coup, je le suis pour mon baromètre des nordistes en voie des sports, puisqu'il a été formé à Lens. Et effectivement, il jouait assez peu. Et là, sur le dernier mois et même sur la saison, il est quand même très bon. Très, très bien dans le ton. Déjà, contre Manchester, il avait été excellent, notamment à l'aller. Mais c'est vrai que le stade joue un grand rôle. Et bon, du coup, Vanda n'aura pas qualifié son équipe comme Anfield avait qualifié Liverpool face à Dortmund sur un quart de finale de Ligue Europa il y a quelques années avec les buts de Sakho puis de Lovren de la tête en fin de match alors que Dortmund menait 3-1. Mais c'est vrai que, en fait, je comprends un peu mieux, même si je comprends, enfin, je comprends un peu mieux. Disons, je n'excuse pas, entre guillemets, le 5-5-0 de l'aller. Je trouve que tu perds quand même le match là. Maintenant, je peux comprendre ce côté. On va essayer de rester dans le match après l'aller parce qu'on sait qu'on va tellement mettre le feu avec le stade, etc., qu'il y aura un vrai avantage au retour. Malgré tout, quand je dis que je n'excuse pas, je m'en fous, mais je trouve quand même que c'était pas le plus pertinent. Parce que ce City-là, tu te rends compte que quand tu l'agresses, tu peux le mettre en danger. Et je suis pas persuadé que ce soit uniquement l'effet du stade, de la pression, du résultat, etc., qui fait que City rate des passes. Je pense vraiment que si tu vas faire chier City à l'aller au pressing, tu as plus de chances. Tu vas pas forcément perdre 2 ou 3-0. Je pense que malgré tout, tu peux perdre avec un but d'écart. Par contre, je pense vraiment que tu peux faire nul ou gagner et qu'au final, tu te compliques un peu inutilement la mission. Je pense vraiment que l'Atletico a eu beaucoup trop peur de City à l'aller et que là, ok, le stade joue un rôle, mais que la friabilité de City face au pressing adverse et face à l'intensité, elle aurait pu se voir dans d'autres contextes parce qu'en plus, l'Etihad, c'est pas non plus un chaudron, quoi. Tu peux assez vite casser l'ambiance si jamais tu étouffes cette équipe.
Mais surtout qu'en plus, du coup, les temps forts de l'Atletico arrivent sur la double confrontation, arrivent une fois que Griezmann et Félix se sont cuits. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que Griezmann, il sort à la 70e, Félix, il sort à la 82e, mais ça fait 10-15 minutes qu'on le voit plus trop. alors que sur les premières périodes, ils ont des fulgurances. Ça, je trouve ça un peu dommage quand même. De pas avoir tes temps forts en même temps que tes deux meilleurs joueurs sont sur le terrain.
Alors, je sais pas si Griezmann est l'un des deux meilleurs joueurs, mais ouais, Félix. Voilà.
Non, mais dans un contexte où t'es pressé par des équipes et tout ça. Enfin, les deux plus inspirés dans des situations comme ça, je trouve.
Mmh. Mais par contre, Félix, pas, oui. Mais...
Ouais. Mais après, Griezmann est toujours capable de trucs intéressants, je trouve.
Mais non, mais après, le côté Griezmann qui fait chier tout le monde pendant 70 minutes et Carrasco qui rentre. Ça, par contre, je peux le comprendre, parce que Carrasco, sur 25 minutes, c'est quand même très fort.
Entre Correa, c'est fun aussi, sur 20 minutes.
Ouais, ouais, ouais. Mais bah bon, après, si on peut revenir sur Savic, Felipe,
la on va y arriver,
alors, c'est pas vraiment une charnière, parce qu'il y avait Reinildo qui essaie aussi dans le coin.
Qui a été bon, encore.
Ouais, qui a été très bon, en plus, c'est pas vraiment son poste d'être central. Mais, enfin, les deux querelleurs. Alors, moi, Savic... avec Florent, après, on le trash depuis 4 ou 5 ans.
Mais Savic, il fait un bon match, par contre, je trouve, sur le reste. En revanche, Felipe, il... Après,
Il peut dégager sur sa première intervention.
Oui, c'est ça, oui, parce qu'il essaye de tuer Foden. Je pensais qu'il lui avait fait le coup du lapin et que le Foden allait finir paralysé au départ. J'ai vraiment eu peur pendant quelques secondes de me dire « Ah, on va voir un mec être paralysé en direct parce qu'il l'a envoyé vraiment fort ». Mais c'est un peu l'autre côté de la pièce, Flo, c'est que quand tu mets une telle intensité et que tu mises tout sur on va leur mettre le feu, on va leur mettre le feu, le stade va leur mettre le feu, allez les gars, on les démonte, parce que je pense que le discours c'était un peu ça, quand tu vois comment ils ont été sur la deuxième période notamment, bah c'est ça aussi le risque, c'est que les joueurs ils sont dans un état
c'est-à-dire que même...
de transe limite.
C'est-à-dire, c'était au coup d'envoi, Felipe était déjà trop loin.
Oui, lui, tout seul un peu tout seul d'ailleurs, ouais, parce que les autres pas du tout.
Et donc imagine quand tout le monde est boosté, si lui continue de monter, bah à un moment donné, ouais, ça devient compliqué. Ce qui est exceptionnel, c'est que quand il prend rouge, il comprend pas et il va contester derrière, quoi. Alors que tu vois évidemment, alors certes, il en rajoute Foden à se rouler par terre, à revenir sur le terrain et tout. Mais le premier tacle, et tu vois très bien la deuxième jambe pour remettre un coup derrière, tu fais bon, écoute, c'est bon, termine.
Moi, ça m'a vraiment énervé, pas dans le, enfin, le côté moral du foot, c'est pas beau, etc. Bon, ça oui, c'est un peu moche.
Non, tu viens casser ton temps fort.
Moi, ça m'a vraiment énervé. Si je suis coéquipier de Felipe, je lui dis, enfin, pas le mot sur le moment, parce que tu te dis encore, même à 10 contre 11, on peut égaliser.
Puis il va t'en mettre une en plus.
Mais a posteriori, tu sais, là, quand ils vont partir en vacances dans un ou deux mois et qu'ils vont se dire, on a failli sortir City, qui se trouve va aller en finale, va être champion d'Europe. En fait, ça se trouve, là, les 5-10 dernières minutes, si t'es à 11, l'Atletico passe. Hein. Moi, je City, ils étaient vraiment, comme a dit Christophe tout à l'heure, cataclysmiques, je trouve, sur la deuxième période. Ils sont complètement à la rue, mais c'est dans tous les domaines, en plus. Ils subissent des occasions, ils perdent des ballons, ils n'arrivent pas à renvoyer un seul ballon aérien dans leur camp. Et en fait, ce que Liverpool a pas assez fait sur le match de championnat, je trouve, mais c'est juste, tu leur mets des ballons dans des zones où ils ont pas l'habitude de recevoir des ballons. Et pas des ballons au sol, parfois des ballons un peu en l'air, et Cancelo, Walker, Laporte, Stones, dès qu'il y a des ballons comme ça, c'est... Ils sont jamais sur deux. Et ils ont pris des vagues successives en deuxième. Il y a combien de tirs en deuxième pour l'Atletico? Je suis en train de regarder. Il y a 13 tirs.
13, ouais, c'est ça.
C'est énorme pour l'Atletico, 13 tirs sur une période. Et il y a des vraies bonnes occasions. Donc je pense qu'ils sont... Ils ont vraiment bien survécu, City. C'est un match qu'ils peuvent perdre 2-0 sur les 10 dernières minutes, tranquille, et personne conteste.
Mais à noter aussi que Versalco a pété un câble... Oui. Dans le couloir, parce que moi, du coup, j'ai suivi ce match au bar et qui était sur RMC. Et du coup, RMC, visiblement, c'était pas forcément le cas sur Canal, a montré cette action où je sais pas s'il crache vraiment ou s'il mime un coup de tête.
Il crache dessus, a priori, ouais.
Je pense qu'il crache, sinon, si tu mimes un coup de tête avec 8 personnes entre les gens, enfin, tu mimes pas un coup de tête à 8 mètres de la personne. Mais alors, je peux comprendre que Grealish ait une tête potentiellement assez énervante, une tête assez clivante, je trouve. Et il a tendance un peu à faire un sourire de con pour bien frustrer les gens. Mais Versalco n'avait rien contre le joueur, hein. Enfin rien pour non plus. Mais Versalco n'a pas joué en fait, et tu te dis.
Sachant que Versalco, quand il joue, c'est aussi une tête à claque, hein, d'ailleurs.
Oui. C'est un petit peu le petit frère de Savic. Hein,
mais les deux, ils ont des têtes de peintres de la Renaissance à Florence.
Ouais, c'est ça. C'est
avec leur espèce de petite boucle, petite moustache.
Mais pas la même élégance.
Mais c'est ça. Non, mais en fait, je pense vraiment que Simeone a remonté tout le monde. Il y a des joueurs comme, bon, il a pas joué, mais par exemple, Daniel Vaz, c'est pas non plus le joueur le plus énervé du monde. Donc, par exemple, si tu mets un Vaz, je pense que t'as besoin un petit peu de le booster. Pareil, Lemar, quoi. Je pense pas que Lemar soit le mec le plus vénère du monde. Même Renan Lodi, Llorente, c'est le joueur assez clean. Autant, je pense que du coup, quand tu remontes tout le monde et qu'un Felipe et un Savic sont déjà assez hauts de base, du coup, les mecs
deviennent fous. Luis Suarez. Si Luis Suarez avait démarré le match, ça aurait été rigolo aussi.
Oui. Même si des fois je me demande si Suarez il a pas le truc, je suis trop vieux pour ces conneries, tu sais.
j'ai mûri, c'est derrière moi tout ça.
Ouais, c'est comme son incapacité à courir plus de 10 mètres, quoi. Je pense qu'il y a un moment où il a plus envie de se
Ouais.
battre.
Ça c'est aussi un problème. Après, moi, Angel Correa m'a à la fois bien amusé parce qu'il a fait des diffs, mais vraiment énervé avec ses choix. Il a des bonnes situations, des bonnes occasions. Alors, il y a le semi-penalty là où il se laisse en partie tomber. Il tombe très mal en plus. C'est un peu. Moi, Correa, c'est un peu les joueurs clivants, pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont bons, mais ils sont bons d'une façon qui est très très frustrante. Et ça, c'est des joueurs, je pense, quand t'es coach, tu passes de l'amour à la haine très vite. Et Angel Correa, c'est typiquement ce genre de mec. C'est pas João Félix où tu te dis, oh là là, encore un choix juste, encore un choix juste, encore un choix juste. Ah, il est un peu gentil sur la finition. Correa, c'est. Il a un choix de frappe à un moment, une frappe complètement ratée là, dans les 15 dernières minutes qui me. Je pourrais plus décrire l'action, mais ça m'a marqué quand même.
Ouais, c'est coréen, c'est coréen.
Oui,
C'est le mec qui rentre dans les 20 dernières minutes à chaque match de l'Atlético un peu chiant. Il fait des choix freestyle. Je pense que lui-même sait pas ce qu'il va faire avant. Et dans
ça,
l'eau, il y en
pour le
a
coup,
trois
par
qui vont
contre,
faire de différence. Et tu dis, putain, heureusement qu'il était là parce qu'il se passait rien. Mais
ça, pour le
par
coup,
contre, il y en a
il est
huit à
jamais
oublier.
transparent, par contre. Mais il est jamais transparent, ça, c'est quand
Ah
même une
non,
chance quand tu
c'est
rentres en jeu.
il se passe toujours quelque chose, quoi.
Flo, est-ce que tu veux rajouter un mot sur City, peut-être, sur des joueurs, sur
Non.
la projection contre le Real? Est-ce que le Real a une chance? On a dit que le Real, à chaque tour, était moins fort collectivement que son adversaire. Est-ce que
Oui, bah
contre ce
oui, ils ont
City-là, ils
pas se
peuvent
refaire
passer?
avoir. Oui, ils ont une chance. Voilà.
Le Real va gagner la compétition. Voilà, on va le dire comme
Bah.
ça. Et Villarreal contre Liverpool, puisque tu as vu Villarreal, je crois que c'est toi qui les as le plus vus.
Bah, ils vont avoir à nouveau beaucoup de taf avec leur bloc bas. Je pense que Liverpool a beaucoup plus d'atouts pour gérer leur sortie de balle et les presser, les empêcher de sortir que le Bayern. Enfin, ils sont. Enfin voilà, le Bayern sur les dernières semaines et les derniers mois, notamment à l'Allianz Arena, on avait vu des équipes qui étaient venues les ennuyer. On en avait parlé enfin sur l'épisode du match aller, après le match aller. Donc alors que Liverpool, je pense qu'il y a quand même moins d'équipes. Ils peuvent s'inspirer de ce qu'a fait Benfica, mais il manque quand même d'énergie et de puissance devant par rapport à Benfica. Ils n'ont pas de Darwin Núñez devant par
Non, ouais.
exemple à Villarreal. Donc je pense que Villarreal peut tenir avec son bloc bas, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller marquer, de faire une mi-temps comme ils l'ont fait face au Bayern? S'ils la font, bah, bravo Emery, quoi. Mais j'ai un peu plus de doutes quand même.
Match aller à Anfield, match retour au Madrigal de
Oui,
Villarreal.
qui est le Stadio de la Ceramica maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
Ça a
Mais
changé.
Madrigal, c'était joli. Bon, bah tant pis. J'aimais bien ce nom.
Et big up à Darwin
Et
Núñez quand même, hein. Je pense qu'on
oui,
n'en
qui avait
parlera plus
encore été très bon.
d'ici la fin
Bah
d'année
non.
sur vue du
Mais je
banc.
pense. Mais dans quelques mois, il sera plus à Benfica, donc on en
C'est
reparlera
ça.
peut-être plus
Mais
souvent.
là, un but, deux buts refusés pour hors-jeu et une volée que Alisson sort par miracle. Alors les buts
Ouais.
hors-jeu, enfin il y a hors-jeu, voilà. Mais c'est pour dire que les finitions y étaient, quoi. C'est-à-dire vraiment le mec est létal. C'est vraiment
En
le mec.
partant souvent du côté sur ce match-là, en plus, il a souvent été excentré pour se trouver de l'espace. Et Man City Real, Manchester City recevra à l'aller le Real, recevra au retour 26 avril et 4 mai pour ce match-là, 27 avril et 5 mai pour l'autre, ou 4, 3 mai, pardon, pour l'autre. On en reparlera vite. Merci messieurs pour cet épisode européen. On parlera aussi évidemment de Ligue Europa Conférence puisque l'OM est en demi-finale. Mais d'ici là, il y aura sans doute des épisodes sur la Ligue 1 puisqu'on s'approche du dénouement, des jeux du directeur sportif peut-être aussi. On va s'en approcher aussi. On revient vite pour un nouvel épisode de Vue du banc. Ciao!
Salut.
Cordialement.